Lettre de Frère Joseph Branham du 7 septembre 2025. Les aigles se rassemblent. Chère épouse du troisième exode, si vous n'avez pas un œil spirituel, vous ne saisissez pas cela. Mais l'œil spirituel peut voir la puissance de Dieu agir parce qu'elle concorde parfaitement avec la parole. C'est la parole et la parole de Dieu ne change jamais. Ce qu'il a fait au commencement, il fait la même chose maintenant et l'œil spirituel voit cela, le croit et l'écoute. Le monde peut ne pas être d'accord avec moi quant à ce que je crois être le moyen pourvu par Dieu pour aujourd'hui. La voix la plus importante que vous deviez entendre, c'est la voix de Dieu sur les bandes. Vous devez passer les bandes dans vos églises, mais si vous croyez véritablement ce message, alors vous ne pouvez pas être en désaccord avec ce que le prophète de Dieu dit. Ce dimanche, nous nous rassemblerons comme l'ont fait les enfants hébreux, pour ramasser la manne qui avait été pourvue pour eux pendant la nuit, qui allait les nourrir pendant la journée. Nous serons rassemblés pour notre manne spirituelle, qui donnera de la force pour notre grand exode qui vient bientôt. Il n'y a tout simplement pas de meilleur moyen que de laisser la voix de Dieu le dire lui-même, au sujet de lui-même, et ce message que nous allons entendre est bien chargé. Frère Branham dit, je cite, « Dieu a pris un homme dans le désert et l'a formé. Il l'a ramené, cet homme a pris le contrôle de la situation et a fait sortir le peuple. » Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas changer son programme. Il est Dieu. Fin de citation. Alors ici, il nous dit clairement qu'il ne change jamais son programme. Ce qu'il a fait depuis le commencement, il le fait encore à la fin, il a promis. Alors maintenant, nous devons savoir ce qu'était son programme à ce moment-là, étant donné que ce sera le même programme maintenant. Frère Branham dit, je cite, « Il ne traitera jamais avec un groupe. Il ne l'a jamais fait. Il traite avec un individu, il l'a fait et il le fera. Et il a promis même dans Malachie 4 qu'il le ferait. » Fin de citation. Il ne traite jamais avec un groupe. Donc, dans notre jour, il a promis qu'il enverrait un seul homme, Malachie 4, avec l'ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit, je cite, « C'est vrai. Donc, voilà sa promesse, ce qu'il était, ce qu'il a promis qu'il ferait, et nous y sommes. Quel peuple heureux nous devions être. Il leur donne le signe qui a été promis dans sa parole, la parole promise. Il a promis qu'il le ferait. » Fin de citation. Comment Dieu a-t-il choisi de conduire son épouse à cette époque-là? Frère Branham dit, je cite, « C'est Dieu qui choisit. À l'époque de l'Exode, il a appelé un groupe à sortir. De ce groupe, je veux vous faire remarquer quelque chose. Il n'a que deux hommes de ceux qui sont allés au pays promis. Quel moyen a-t-il choisi pour les faire sortir? » Fin de citation. Voilà, c'est ça. Il est tellement important que la pensée spirituelle saisisse cela. Comment Dieu a-t-il choisi de conduire et d'emmener l'épouse au pays promis? Frère Branham dit, je cite, « La politique? L'organisation? Il a choisi un prophète qui avait un signe surnaturel, une colonne de feu, pour que le peuple ne se trompe pas. Ce que le prophète disait était la vérité, et Dieu est descendu dans une colonne de feu et a confirmé qu'il s'agit bien de lui. Il a fait une démonstration de sa parole. Pas vrai? C'est ce qu'il a produit à son premier exode. À son deuxième exode, fin de citation. Donc, pour s'assurer que le peuple ne se trompe pas, il leur a envoyé un prophète qui avait un signe surnaturel, la colonne de feu, pour leur grand exode. Frère Branham dit, je cite, « Qu'est-ce qu'il a fait au premier exode? Il a envoyé un prophète loin avec une colonne de feu et il a appelé le peuple à sortir. C'était son premier exode. Au deuxième exode, il a suscité un prophète loin qui était son fils, un prophète Dieu. Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Il avait la colonne de feu et il a opéré des signes et des prodiges. Et ici, il a promis la même chose dans l'exode, au dernier jour, et il ne peut pas modifier cela. » Fin de citation. Beaucoup s'accorderont pour dire oui, il a envoyé un prophète pour appeler une épouse à sortir, mais maintenant, le Saint-Esprit conduira l'épouse par le ministère. Mais il n'a pas dit cela. Continuons simplement à lire. Remarquez, la colonne de feu qui les avait appelés à sortir les a conduits au pays promis sous l'onction d'un prophète. Une colonne de feu qu'ils pouvaient voir les a conduits au pays promis par un prophète loin. Et continuellement, il le rejetait. Pas vrai? Bien sûr. Fin de citation. Frère Branham dit, je cite, cette même colonne de feu conduit de nouveau les gens au pays promis, le millénium. Fin de citation. Frère Branham dit, je cite, la colonne de feu sous la conduite de Dieu, Dieu était le feu, et la colonne de feu n'a oint que le prophète. La colonne de feu devait servir de témoin céleste que Moïse avait été appelé à sortir. Fin de citation. Frère Branham dit, je cite, or, souvenez-vous, Moïse n'était pas la colonne de feu. Il était le conducteur oint sous cette colonne de feu, et la colonne de feu confirmait simplement son message par des signes et des prodiges. Fin de citation. Frère Branham dit, je cite, il n'y a pas d'erreur, mes amis. Il ne s'agit pas de ce que moi je dis. Je suis simplement votre frère. Mais il s'agit de ce que Dieu vous prouve, c'est ce qui fait que c'est la vérité. La même colonne de feu qu'il a utilisée les deux autres fois, il l'a amenée parmi vous aujourd'hui et en a apporté la preuve scientifique. Fin de citation. Dieu ne change jamais son programme. Dieu a pourvu d'un moyen pour son épouse aujourd'hui, la colonne de feu, sous la conduite de Dieu. Dieu était le feu et la colonne de feu n'a oint que le prophète. Il n'y a qu'une seule voix, un seul prophète qui a ainsi dit le Seigneur, William Marion Branham. Il n'est pas la colonne de feu, mais il est le conducteur oint sous la colonne de feu. Nous voulons tous être dans la volonté parfaite de Dieu. Sa parole est sa volonté parfaite. La parole confirmée pour notre jour est ce message. Son prophète a été choisi pour conduire son épouse. Si vous ne croyez pas cela, vous ne pouvez pas être son épouse. Venez et préparez-vous pour notre grand exode en écoutant avec nous la parole parfaite de Dieu, ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le troisième exode du 30 juin 1963, le matin. Frère Joseph Branham. Thank you.
Courbons la tête maintenant pour un mot de prière. Pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande s'il y a des requêtes spéciales que vous voudriez faire connaître à Dieu. Levez simplement la main et là, sous votre main, pensez à votre requête. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous rassembler une fois de plus de ce côté-ci de l'éternité. Et ce matin, nos regards se tournent vers toi pour le renouvellement de nos forces, afin que nous soyons armés de courage pour le voyage qui nous attend. Nous nous sommes rassemblés comme le faisaient les enfants hébreux tôt le matin pour ramasser la manne qui avait été pourvue pour eux pendant la nuit, afin de leur servir de nourriture pendant la journée. Ce matin, nous nous rassemblons pour la manne spirituelle, pour avoir la force pour le voyage. Pour chacune de ces mains qui se sont levées, tu connais tout ce qu'il leur faut, Seigneur. Et je présente devant toi ma prière et la leur, afin que pour chacun de leurs besoins, tu pourvoies ce qu'il leur faut. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Nous savons que tu es Dieu et que tu peux tout faire. Tu as promis de le faire. Si nous pouvions tout simplement faire comme ce chant nous y invite, crois seulement, alors que nous avons entendu ces mots glorieux, marcher et parler avec le roi. Maintenant, ô Dieu notre Père, bénis ta parole qui sera prononcée ce matin. Puisse-t-elle trouver son lieu de repos dans nos cœurs, afin qu'elle produise les choses que nous demandons, ô Père. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous le demandons. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci, ma sœur. Je crois qu'il était dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand je quittais Hot Springs hier, Frère Moore a dit, Frère Branham a-t-il dit, vous ne voulez-vous pas venir avec moi là-bas au Texas, à la convention qu'il y a là-bas, a-t-il dit, pour vous reposer quelques jours? J'ai dit, j'ai deux réunions demain. Il a dit, deux réunions? J'ai dit, oui. Il a dit, vu toute l'énergie que vous avez déployée lors des prédications ici, a-t-il dit, un homme devrait prendre une semaine de repos après chacune d'elles. Il a dit, prenez par exemple un pasteur, il apporte son message du dimanche matin et tout, a-t-il dit, puis il se repose le reste de la semaine. Et là, peut-être c'est juste une trentaine de minutes ou quelque chose comme ça. Et il a ajouté, ici vous avez prêché pendant deux ou trois heures, chaque fois, a-t-il dit, jour après jour, et parfois deux fois par jour, en plus de faire une ligne de prière et tout ce discernement. Il a dit, et là vous me dites que vous rentrez chez vous pour avoir deux réunions le dimanche? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, comment y arrivez-vous? J'ai dit, le secours me vient de l'Éternel. Voyez, l'heure est tardive, comme l'a dit quelqu'un dans sa prière il y a un instant, alors que j'entrais. L'heure est tardive, et les besoins sont grands. Et nous sommes ici pour essayer de faire notre part, pour aider en cette heure glorieuse où nous vivons. Maintenant, si le Seigneur le veut, ce soir, je veux parler sur le sujet « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» C'est que je veux enregistrer cela. Bon, je ne sais pas si on va enregistrer ceci ce matin ou non. Je vois des gens dans la salle. Il y a quelques frères là-dedans. Je suppose que c'est ce qu'ils font. Je pensais que Frère Neville allait prêcher. Dimanche dernier, je lui ai demandé d'aller de l'avant avec son message. D'aller de l'avant. Et que je pourrais aborder un petit sujet après lui. Mais si on veut enregistrer la leçon de l'école du dimanche, alors, pas de problème. Et puis, si le Seigneur le veut, dimanche prochain, c'est-à-dire si le Seigneur permet que nous soyons ici, je veux prêcher sur le sujet que je tiens à porter depuis longtemps. J'ai promis que des messages comme ceux-là, je les donnerai premièrement dans ce tabernacle. Ces messages qui sont enregistrés. Je veux accuser cette génération d'avoir crucifié Jésus-Christ dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut. Et maintenant, ce soir, à 19h, ou plutôt 19h30, c'est le message « Votre vie est-elle honorable ?» Bon, parfois, quand j'apporte des messages comme ceux-là, je dis des choses qui sont assez tranchantes. Ça ne veut pas exactement dire que j'adresse cela particulièrement à cette église ici, ou quelque chose comme ça. Souvenez-vous, quand je prêche, ce que je dis fait le tour du monde. Voyez, nous avons mis sur pied un système de bandes à travers le monde entier. On apporte ces messages là-bas, dans les jungles, et partout. Et parfois, le Saint-Esprit me conduit à dire quelque chose qui sera peut-être la chose même qu'il veut transmettre à quelqu'un tout là-bas, quelque part en Australie, ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être, pour certaines choses, vous diriez, « Eh bien là, cette chose n'existe pas ici. Pourquoi dit-il cela ? » Peut-être que c'est pour un autre endroit, vous voyez ? Donc, oui, je suis sûr que vous comprenez que ces messages ne s'adressent pas à quelqu'un en particulier. Ça s'adresse à l'Église, dans son ensemble, partout, ainsi que tout ce que le Seigneur nous conduirait à dire et à faire. J'ai passé des moments glorieux à Hot Springs, lors d'une série de réunions pentecôtistes à l'ancienne mode. Je suis certain que beaucoup d'entre vous sont convaincus que ces gens-là sont des pentecôtistes, puisque vous qui y êtes allés, eh bien, je ne connais pas ce groupe-là. J'étais censé passer seulement une semaine là-bas. Alors, je leur ai accordé 2 ou 3 jours. Mais je veux dire une chose. Au cours de ces réunions, ces gens avaient certainement la foi pour croire. Si certains d'entre vous y étaient, eh bien, je sais qu'il y avait cette dame assise là, au bout. Je ne sais pas qui elle est, ou celle qui est juste ici. Je sais qu'elle était là, et je sais que quelques frères étaient là, frère Jackson, frère Palmer et les autres. C'est ce que les gens obtiennent quand ils ont la foi, voyez. Avez-vous remarqué cette ligne de guérison? Il n'y en a pas eu un seul qui soit entré ou sorti sans que Dieu le guérisse. Voyez. C'est ce qui arrive quand on a la foi. Autre chose, il se peut que certains d'entre vous ne comprennent pas toutes ces émotions, toutes ces danses et tous ces cris. Eh bien, ils ne visaient aucun individu en particulier. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de pousser des cris devant Dieu. Voyez, c'est en ordre. Mais je tiens à dire que c'est l'un des groupes de femmes les plus décentes que j'ai jamais vues. Avec leurs cheveux longs, et ce sont des gens qui viennent de là-bas, dans la jungle, là-bas, dans les forêts. Mais je ne crois pas avoir vu quelqu'un là-bas à l'allure très moderne. Vous savez ce que je veux dire, avec toutes sortes de maquillage et tout. Cela montre que, il se peut que je ne sois pas d'accord avec tout ce qu'ils enseignent, mais sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. À mes yeux, ils ressemblaient à des chrétiens. Donc, hier ou avant-hier, à midi, le Seigneur m'a conduit à prêcher sur le sujet juste une fois encore, Seigneur. Et si l'Église ou certains d'entre eux ne le savaient pas, je l'ai fait dans un but, parce que le Seigneur m'a conduit à le faire. Ce petit groupe dérivait vers quelque chose, et le Seigneur a fait cela pour les aider. Donc, c'était tout simplement merveilleux. J'ai certainement, vous savez, il se passe des choses. Si vous n'avez pas un œil spirituel, vous ne saisissez pas cela. Voyez, il faut s'attendre à ces choses. Je suis entré, et frère Angren, je crois que c'est la deuxième fois que j'entends cet homme chanter. Juste au moment où j'entrais dans la pièce, il chantait « Je marche et je parle avec le roi ». Je me suis dit, n'est-ce pas magnifique? Comment le roi, voyez, marcher et parler, cela signifie que c'est une communion constante. Pas seulement dans l'église, mais partout. Marcher et parler avec le roi. Et là, nous avons regardé sur le mur. Il y avait une carte collée sur un petit tableau là-bas. C'était une sorte de paysage qu'un homme appelé George Todd avait peint pour moi. Je ne sais pas pourquoi cet homme l'avait fait. Peut-être qu'il n'y avait même pas pensé, et il l'avait peint. C'est un tableau qui représente une montagne dans un décor de forêt, et le ruisseau qui coule. D'un côté du ruisseau se tiennent une biche et un faon, les oreilles dressées, qui regardent de l'autre côté du ruisseau. Je ne sais pas si M. Todd est ici, je ne le connais pas. Mais je tiens à dire ceci, le Seigneur m'a parlé quand j'ai regardé ce tableau, et peut-être qu'il ne le savait pas quand il le peignait. Vous souvenez-vous de ma petite histoire au sujet du cerf que cet homme allait fusiller, et de son sifflet? Eh bien, voilà qu'elle était là avec son fond, près des eaux de la vie. Voyez, quelle inspiration de voir que cette mère cerf et son petit étaient là. Et j'ai pensé, oui, de l'autre côté, là-bas, près des arbres toujours verts. J'ai aussi une mère et son enfant là-bas. Elles attendent là-bas. Merci, mon frère, frère George Todd, si vous êtes ici ce matin. Maintenant, je vais apporter la leçon de l'école du dimanche. D'habitude, je suis un peu long avec ça. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me vient constamment à cœur depuis hier. Maintenant, nous, si le Seigneur, c'est un sujet. Je prends de l'âge et je ne sais pas combien de temps encore il me reste ici. Mais il y a une question importante dans l'Église qui met les gens en désaccord parce qu'ils ont des idées différentes. C'est comme le fait de manger la pomme. J'ai prêché un message là-dessus et je crois que je peux absolument prouver par les Écritures que ce n'était pas des pommes. Vous voyez, ça cause beaucoup de confusion. Donc, peut-être avant de partir, là nous devons retourner en Arizona dans une trentaine de jours, vous savez. Et alors, avant de partir, si le Seigneur le veut, je voudrais prendre les Écritures. N'enregistrez pas cela. Si vous le faites, ne vendez pas la bande, ne la laissez pas sortir. Je veux expliquer ce qui est réellement la vérité au sujet du mariage et du divorce. Les gens se posent des questions, et nous vivons les dernières heures où tous les mystères de Dieu s'accompliraient. Hier, quand je traversais les montagnes, vers le lever du jour, le Saint-Esprit semblait me dire, « Enregistre cela et garde ça. » Je ne sais pas pourquoi, mais la vérité authentique au sujet du mariage et du divorce. Certains disent, « Les gens peuvent se remarier s'ils peuvent jurer qu'il y a eu un adultère. » Et d'autres disent, « Eh bien, s'ils se maltraitent l'un l'autre et qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, il vaut mieux vivre en paix sur terre que de vivre en enfer sur terre. » Et tous ces questionnements, certains les marient n'importe comment, d'autres veulent les asperger d'eau bénite, déclarer les avoir ramenés à leur état initial et dire, « Ils n'ont jamais été mariés, les bénir afin qu'ils fassent de nouveau partie de l'Église. » Il y a toutes sortes de confusions. Mais s'il y a tant de confusion, c'est qu'il y a une vérité quelque part. Je crois, et je dis ceci avec révérence, je crois que le Seigneur me l'a révélé, et je, la vérité. Et si ça se retrouvait dans les églises, ça les mettrait en pièces, ce qui peut-être devrait être le cas. Mais c'est, je préfère que ce soit seulement les pasteurs, que ce soit seulement les pasteurs des églises qui obtiennent la bande, qu'ils l'écoutent, après quoi ils pourront décider de leur conduite. Mais j'aimerais juste enregistrer ça pour montrer ce qui est réellement la vérité. Je crois que c'est maintenant l'heure où ces mystères doivent s'accomplir, s'achever. On en a parlé, comme nous l'avons dit, en parcourant ces âges, ces surbandes, quand nous avons abordé ces sept sceaux et ces sept âges de l'Église. Et c'est maintenant le moment d'aborder les sept trompettes et ensuite les coupes. Peut-être que nous aurons une série de réunions de 2 semaines pour faire d'une pierre 2 coups. J'aimerais que ça soit enregistré. Et en plus de cela, en ce moment, j'essaie de les faire réviser afin d'en faire des livres. Les âges de l'Église. 7 livres des âges de l'Église. 7 bandes. Les faire comme cela. Nous voulons qu'ils coûtent le moins cher possible afin que tout le monde puisse se les procurer. Et si le Seigneur tarde et que je quitte la scène, vous verrez que les choses que j'ai dites au nom du Seigneur s'accompliront exactement comme elles ont été dites. Ça n'a encore jamais failli. Et certaines de ces choses doivent se produire plus tard. Et j'espère que le Seigneur nous permettra de faire cela tout de suite. Nous allons aviser les gens à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir écouter ces choses. Et j'apprécie cela. Si personne ne croyait cela ou n'écoutait cela, à quoi cela me servirait-il de me tenir ici et dire des choses à ce sujet? Vous voyez, ce serait comme de jeter du pain sur la face des eaux. Ce serait comme, si personne n'allait le croire, alors ce serait comme de jeter des perles devant les pourceaux. Mais il y a des milliers et des milliers de personnes qui croient cela, vous voyez, et ils s'accrochent à chaque parole. Et nous aimerions faire entrer le plus grand nombre possible quand nous serons prêts à avoir ces réunions pour la gloire du Seigneur. Et nous espérons que Dieu nous l'accordera. Et je ne veux pas le faire tant que je ne suis pas divinement inspiré à le faire. Dieu a un temps pour chaque chose, vous voyez. Il ne faut pas devancer cela. Si vous coupez votre blé avant, si la moissonneuse y passe avant qu'il soit mûr, vous perdrez la plus grande partie de votre blé, voyez. Donc, quand sera venu le temps de se servir de la faucille, Dieu s'en servira. Puis, nous irons à la moisson. Mais quand je me sens sous pression comme ça, je pensais que j'allais m'en débarrasser très vite. Toute la journée d'hier et toute la nuit dernière, Je n'ai pas pu m'enlever ça de la tête. Je me suis couché vers minuit. J'avais dormi environ 3 heures la nuit précédente. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir. Jusque-là, quelque chose me disait, enregistre ça, le mariage et le divorce. Vous voyez? Donc, si le Seigneur le veut, si je continue d'avoir ça à cœur et que le Seigneur m'en montre un peu plus, eh bien, alors je pourrais enregistrer ça. Vous voyez? Mais souvenez-vous, c'est seulement pour les ministres. Vous pouvez venir écouter, mais la bande elle-même que, voyez, parce que quand ça se retrouve au sein des assemblées, certains comprennent comme ceci, d'autres comme cela, et les gens se forgent leur propre opinion. Et je veux que ce soit les frères ministres qui aient ceci dans leur bureau personnel, et que ce soit pour eux un point de référence, parce que ce sont eux qui ont la responsabilité, ce sont eux, comme d'aller faire écouter ça à un juge, à certains de ces officiers de justice, oui, voir ce que le Seigneur a dit sur ce sujet, le mariage et le divorce. C'est plus sacré que les gens le pensent. Et cela va s'harmoniser parfaitement avec la semence du serpent. C'est la même chose qui se poursuit, tout simplement. Ce sont ces mystères. Souvenez-vous, au jour du septième ange, tous les mystères de Dieu s'accompliraient. Ces choses inconnues que le Seigneur allait mener à terme. Bon, jusqu'ici, maintenant, rappelez-vous, est-ce à 19h30 que vous commencez la réunion? Bon, frère Neville, si tu as un message pour ce soir, prêche-le, voyez, ça ne me prendra pas 1 heure ou 45 minutes pour enregistrer le reste. J'aime écouter frère Neville, je l'aime, c'est mon frère, et je pense que c'est un merveilleux orateur, un merveilleux ministre. Et il y a une chose que j'aime chez frère Neville, quand il dit quelque chose, il vit ce dont il parle. Or ça, c'est le principal. Vous savez, on peut vivre une prédication devant quelqu'un mieux qu'on peut lui en prêcher une. Car vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Maintenant, nous pouvons tourner les pages, mais il faut que Dieu ouvre cette leçon de l'école du dimanche. Alors, demandons-lui de le faire. Père Céleste, par la foi, nous tournons le regard vers l'avenir. Seigneur, par la foi, j'ai le regard tourné maintenant vers une chose qui viendra sur la terre et qui rassemblera ton peuple. Quand nous voyons les églises dénominationnelles si rigides et leurs désaccords qui s'accentuent, cela pousse vraiment les gens à sortir. Exactement comme en Égypte, il s'était élevé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Comme en Allemagne et en Russie et en Italie, les gens ont élevé des Joseph, Hitler, Staline, Mussolini, qui détestaient les Juifs. Ils étaient forcés de retourner dans leur patrie. Oh Dieu, tu as des façons de faire que nous ne comprenons pas. Tu as fait pression sur eux. Pas de foyer en Allemagne. Tout leur a été enlevé. Aussi en Italie, en Russie. Pas d'endroit où aller, et ils ont été renvoyés dans leur patrie, juste pour accomplir la parole. Oh, la main affectueuse de Dieu! Que ça semble parfois cruel, la façon dont les gens souffrent, mais c'est tout de même la tendre main de Jéhovah qui conduit ses petits-enfants. Nous te remercions, Seigneur. Maintenant, je prie au Dieu, alors que je vois en ce jour la dénomination faire pression sur les croyants, les excommuniés, déclarant que leurs noms doivent être inscrits sur leur registre, sinon ils sont perdus, de n'avoir rien à faire avec les autres groupes. Ce n'est que la tendre main de Jéhovah qui les conduit à l'arbre de vie. Je prie, ô Dieu, que chacun, je sais qu'ils le feront, parce que c'est ta parole, et elle ne peut pas faillir. Que nous soyons conduits à l'arbre de vie, afin que nous soyons possesseurs de la vie éternelle. Puissions-nous voir la main de Dieu et, par les yeux de la foi, regarder au-delà de ces ombres dans lesquelles nous marchons aujourd'hui, voir le pays promis qui est juste là devant nous. Bénis ta parole ce matin, Seigneur, ces quelques passages de l'Écriture et ces notes que j'ai inscrits ici. Que le Saint-Esprit vienne maintenant, alors que je me consacre, circoncire ma langue, ma pensée et mon esprit, et que l'Église consacre les oreilles de son entendement, son cœur, et que nous tous, ensemble, tu nous parles par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de la parole, Jésus-Christ, nous le demandons. Amen.
Now, turn in your Bibles to the book of Exodus.
Maintenant, prenez dans vos Bibles le livre de l'Exode. Et maintenant, je veux lire une portion de l'Écriture dans Exode, chapitre 3, de 1 à 12. Écoutez très attentivement alors que nous lisons. Exode, chapitre 3, de 1 à 12. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision que le buisson et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Je veux mettre l'accent là-dessus. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, mais ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs, car je connais sa douleur. Je suis descendu pour le délivrer des mains de l'Égyptien et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays, vaste pays, et dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, Éthiens, Éviens, Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression, ce que leur ont fait souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Avez-vous remarqué? Je suis descendu, mais je t'envoie, Dieu qui va sous la forme d'un homme. Va. Laissez-moi relire le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu as fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Je ne l'avais pas remarqué avant, mais je me suis senti profondément inspiré par l'Esprit ce matin. C'est à ce moment-là que j'ai saisi cela. Dieu, en renvoyant son serviteur, d'où il s'était enfui, lui a donné pour signe une montagne. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Ceci sera pour toi un signe éternel. Voyez ? Maintenant, ce matin, nous allons parler sur le sujet du deuxième exode du peuple de Dieu, ou de l'appel à sortir du peuple de Dieu. Exode signifie qu'on a fait sortir, appeler à sortir, enlever de. Et je veux utiliser cela comme sujet, le deuxième exode du peuple de Dieu. Bon, ils avaient eu de nombreux exodes, bien sûr, mais je parle de la foi que Dieu a appelée à un exode, à une séparation d'avec le lieu où ils étaient en ce moment-là. Ici, Dieu se prépare à accomplir sa divine parole, la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Des années, des centaines d'années s'étaient écoulées, et pourtant, Dieu n'oublie jamais sa promesse. En sa saison, au temps marqué, Dieu accomplit toujours parfaitement sa promesse. Par conséquent, on peut se reposer avec assurance, car ce que Dieu a promis dans cette Bible, il le fera. Inutile d'essayer de penser à autre chose et dire, « Eh bien, le prophète avait peut-être tort » ou « Cela ne pourrait pas arriver de nos jours ». Cela semblait presque impossible en ce temps-là, plus impossible que maintenant. Mais Dieu l'a quand même fait, parce qu'il avait promis qu'il le ferait. Et regardez comme il le fait simplement. « Je suis descendu. » J'ai entendu leur cri. Je me souviens de ma promesse. Je suis descendu pour le faire. Et je t'envoie. Tu vas le faire. Je serai avec toi. Certainement, je serai avec toi. Ma présence infaillible, infaillible, sera avec toi où que tu ailles. N'aie pas peur. Voyez? Je descends pour délivrer. Je suis sûr que la pensée spirituelle saisit cela. Voyez? Voyez, je vais t'envoyer pour amener mon peuple à un exode, les appeler à sortir, et je serai avec toi. Oh, combien nous pouvons nous reposer, combien la foi peut s'en emparer. Voyez, Dieu va le faire, il l'a promis. Peu importe, quelles que soient les circonstances ou ce que dit quelqu'un, Dieu va quand même le faire, parce qu'il l'a promis. Et il le fait si simplement que ça passe au-dessus de l'entendement des gens cultivés qui essayeraient, par le raisonnement, de se dire « Comment est-ce possible ?» Je ne veux pas dire par là qu'un homme qui a une intelligence assez forte et une bonne instruction, qu'un tel homme ne comprendra pas cela. C'est très bien et c'est merveilleux, tant qu'il utilise cela, cette culture qu'il a, non pas pour raisonner, mais pour croire en Dieu. Que cela soit converti et empreint de simplicité pour écouter ce que Dieu a dit et croire cela. C'est là que sa culture l'aidera. Remarquez, mais quand cet homme, par son raisonnement, essaie de dire « C'est une chose impossible », alors cela l'éloigne de Dieu, de façon continuelle, tout le temps, quand il essaie d'écouter ce que sa propre intelligence. Voyez, si la Bible dit une certaine chose et vous ne comprenez pas, ponctuez-la simplement d'un « Amen ». Laissez ça comme ça. Maintenant, au lieu de vous reporter à ces passages des Écritures au cours de cette leçon de l'école du dimanche, vous pouvez les noter. Mais j'aimerais peut-être, si vous voulez, qu'on les consulte. Mais en tout cas, j'en ai beaucoup ici. Allons, avant de voir ce que signifie cet exode, je vais typifier cet exode-ci, cet exode-là, avec cet exode-ci. Observez si les deux ne sont pas tout à fait similaires. L'un d'eux est naturel. C'est exactement les mêmes choses qu'il a faites dans le naturel, qu'il typifie de nouveau par son antitype dans le spirituel, par un exode spirituel. Que c'est merveilleux de voir la parole de Dieu. Comment peut-on dire qu'elle n'est pas inspirée? Ça, c'était il y a environ 2800 ans. Vous savez, ce qu'il avait promis, ce qu'il a fait et a laissé pour servir d'exemple, il fait l'ombre de quelque chose pour servir de témoignage au positif. Je reparlerai ce soir au sujet de la lune et du soleil, si le Seigneur le veut. Mais premièrement, nous devons revenir à la Genèse pour voir pourquoi ils étaient en Égypte. Pourquoi le peuple de Dieu était-il sorti de ce pays-là? Mais après tout, c'est Dieu qui l'avait promis, là, au commencement, à Abraham, Isaac et Jacob en Palestine. Dieu leur avait donné ce pays et avait dit, « Le voici ». Oh, alors, pourquoi le peuple n'était-il pas dans le lieu que Dieu avait pourvu pour eux? C'est aussi ça, la question aujourd'hui. Dieu nous a donné une Pentecôte. Il nous a donné le livre des Actes. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire et nous guider. Il nous a donné un pays. Pourquoi en sommes-nous sortis? Pourquoi l'Église en est-elle sortie? Pourquoi la grande Église chrétienne d'aujourd'hui ne vit-elle pas de nouveau comme dans le livre des Actes? Et ne produit-elle pas la même chose? Il y a une raison à cela. Nous savons tous que nous sommes divisés et que nous sommes dans un état lamentable. Et c'est aujourd'hui que le christianisme se trouve dans son état le plus lamentable. Et nous sommes vraiment au seuil ou au bord d'un grand jugement effroyable qui attend l'Église. Et avant que ce jugement éclate, Dieu appelle un exode, exactement comme il l'a fait à cette époque-là. Le péché des Amoréens s'est amoncelé. Il appelle donc à un exode spirituel. Maintenant, faisons un bref retour en arrière pour voir le type. Ils sont allés en Égypte simplement parce qu'ils avaient été jaloux d'un frère. C'est la raison pour laquelle Israël était en Égypte en ce temps-là, hors de leur pays. Souvenez-vous, les promesses de Dieu n'étaient valables que tant qu'ils demeuraient dans leur pays. Maintenant, voyez-vous ce que nous disions dans la prière il y a quelques instants? Pourquoi fallait-il que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon? C'était pour ramener ce peuple dans le pays promis, avant qu'il puisse les bénir et leur donner le Messie. Pourquoi fallait-il qu'il endurcisse le cœur d'Hitler pour qu'il soit contre les Juifs, alors qu'il était lui-même moitié juif? Pourquoi devait-il le faire en Staline et en Mussolini? Voyez, les gens qui ne sont pas inspirés en tant que nation, Dieu est obligé de prendre ce dont ils vivent, le plus souvent les lois du pays, pour accomplir ses promesses. Donc, il fallait qu'il endurcisse le cœur de ses dictateurs pour hâter le retour des Juifs au pays promis. Il fallait qu'il en soit ainsi. Maintenant, nous voyons que Joseph, quand il allait, nous connaissons cette histoire, alors que nous retournons dans la Genèse. Vous pouvez simplement lire cela. En effet, je suis un peu en retard pour commencer cette longue leçon d'école du dimanche, et je vais essayer de me dépêcher. Remarquez maintenant, lisez l'histoire de Joseph quand vous le pourrez. Il est né le dernier de ses frères, l'avant-dernier. La pensée spirituelle va saisir ça tout de suite. Il n'était pas le dernier enfant, c'est Benjamin qui l'était. Mais quant à l'excommunication, observez, Joseph et Benjamin étaient des frères germains, et c'étaient les deux seuls frères. Jamais Benjamin n'avait été traité avec égard jusqu'à ce qu'il rencontre Joseph. Mieux que tous les autres, Benjamin avait reçu une double portion de tout ce que Joseph avait donné. Très bien. Remarquez maintenant, nous voyons que là-bas, ils étaient. Il avait été retranché du milieu de ses frères, parce qu'il était spirituel. Il était un homme remarquable, quoique le plus humble du groupe, le moindre du groupe. Et ils le haïssaient sans raison. Ils n'auraient pas dû le haïr, ils auraient dû le respecter. En effet, pourquoi le haïssaient-ils? Parce qu'il était un frère? Pas tout à fait pour ça. Ils le haïssaient parce que Dieu traitait avec lui plus qu'il ne le faisait avec tous les autres. Voyez? Il l'avait doté d'une intelligence spirituelle. Il pouvait parfaitement interpréter les songes. Il pouvait parfaitement prédire les choses qui arriveraient, exactement comme elles devaient l'être. Et il ne prenait pas de gants. Il avait vu le songe de ses gerbes qui se prosternaient devant sa gerbe. Et ses frères se sont alors fâchés contre lui. Ils ont dit, « Voyons donc, petit exalté, en d'autres termes, nous serons obligés de nous prosterner devant toi un de ces jours, mais c'est bien ce qui est arrivé. » Voyez, comment est-ce que ces grands géants allaient-ils jamais se prosterner devant ce petit bout d'homme insignifiant? Mais c'est ce qu'ils ont fait, certainement. Et ils ont imploré sa miséricorde. C'est qu'il n'était pas encore arrivé au pouvoir, vous voyez. À ce moment-là, il n'était qu'un enfant. Alors, de ce fait, nous voyons que Joseph avait été retranché du milieu de ses frères, les dénominations, et qu'il avait été mis à l'écart, voyez, ses frères, dans tout le pays. Et puis, il s'est passé quelque chose de tellement glorieux. Nous savons bien qu'Israël, tant qu'ils demeuraient dans leur lieu d'habitation, ils étaient préservés. Or, voilà une bonne chose, rester à sa place, à sa position, c'est vrai. Mais ils se sont débarrassés de l'esprit. Aujourd'hui, les fondamentalistes connaissent leur position par une conception intellectuelle de la Bible, mais ils n'ont pas l'esprit. Ils ont rejeté Joseph, l'ont mis à la porte. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec ça. C'est une bande exaltée, c'est... Nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Ils l'ont excommunié, l'ont vendu au monde. Ils avaient abandonné leur communion. Or, pour avoir fait cela, ils ont été ôtés de leur place, emmenés en Égypte plus tard. Alors, l'histoire de ces frères jaloux est certainement très comparable à son aspect spirituel aujourd'hui. Nous sommes tous conscients de ça, que c'est de la pure jalousie. Non, ce n'est pas pur, c'est cette saleté de vieille jalousie ignoble. Voyez, il n'y a rien de pur dans la jalousie. Voyez, ce n'est rien d'autre qu'une ignoble jalousie. Pourtant, ils voient la même Bible, la nature du même Dieu qui a écrit la Bible, confirmer qu'il s'agit bien de lui, et le rejette cela sans raison. C'est de la pure, eh bien non, ce n'est pas pur. Comme je l'ai dit, c'est de la sale jalousie. Ils voient Dieu guérir les malades, ressusciter les morts, le même Dieu qui a vécu au jour des apôtres, le même évangile qu'ils ont écrit pour ce voyage spirituel. C'est le même Dieu qui fait la même chose. Alors, c'est absolument par jalousie qu'on les a excommuniés. Nous ne voulons pas de ça parmi les nôtres. Voyez, ils les chassent. Ses frères se disaient qu'ils n'auraient jamais besoin d'un homme comme ça. Alors, pourquoi ne pas s'en débarrasser carrément? C'est ça, c'est la même chose qui est arrivée aujourd'hui. Ils se disent, puisque nos églises sont devenues intellectuelles, que nos fidèles sont les mieux habillés, que nous avons la plus grande organisation, les ministres les plus intelligents, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit à la manière qu'il opérait à cette époque-là. En fait, ils n'ont besoin de rien. En d'autres termes, les actions parlent plus fort que les paroles. Leur séminaire, le cerveau qu'ils ont en eux, leur rassemblement est, et leur débat là-dessus, ainsi que leur propre conception intellectuelle, sont plus efficaces pour mettre une église en ordre, mieux que ce que le Saint-Esprit pourrait faire. Alors, ils n'en ont plus besoin. C'est quelque chose dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Ces jours-là sont passés. Bon, c'est vrai, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour guérir les malades. Nous avons des médecins. Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour parler en langue. Nous sommes tous des gens intelligents. Et quand vous le faites, vous enlevez de votre charpente la corde de sauvetage. À son époque, Jésus a dit aux Juifs, « Ne l'avez-vous pas lu? La pierre qui avait été rejetée, c'est la pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice se repose. Alors, voyez-vous ce que je veux dire? Je suis sûr que vous pouvez saisir cela. Maintenant, la raison, c'est qu'ils pensaient n'avoir jamais besoin de cela. Nous n'avons pas besoin des gens qui parlent en langue. Nous n'avons pas besoin des gens qui interprètent les langues. Nous n'avons plus besoin des prophètes de l'Ancien Testament pour nous mettre en ordre par le Saint-Esprit. Nous comprenons cela. Voyez, ils ont adopté un système fait de main d'homme pour remplacer le Saint-Esprit. Aussi y a-t-il des gens qui sont élus, qui ont leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils sont spirituels. Par conséquent, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas supporter ça, peu importe si leur père et leur mère ont vécu dans une quelconque église organisée. Quand une église dit, peut-être qu'elle ne le dirait pas tout haut. Oh non, ils ne le diront pas tout haut, mais leurs actions le prouvent. Voici la parole. Et le Saint-Esprit le prouve parmi ces gens, quand il arrive à les rassembler, qu'il guérit encore les malades, ressuscite les morts, parle en langue et chasse les démons. Donc, tout dépend de ce qui est à l'intérieur d'une personne. Comme Mme Argenbright, qui est là, je pensais à ça l'autre jour. Elle était là, sur le trottoir, en train d'arracher quelques herbes, comme elle tondait le gazon. Je suis passé là, tout près d'elle. Elle ne m'a pas reconnu, et je l'ai laissé continuer. J'observais. Alors, observez le Saint-Esprit dans sa grande œuvre. L'Église se dit qu'elle n'a pas besoin du Saint-Esprit. Les Églises vous le diront. Et ces hommes peuvent se lever et vous donner un exposé tellement intellectuel qu'ils peuvent presque vous amener à y croire. Maintenant, arrêtons-nous là un instant. Jésus n'a-t-il pas dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élus, si c'était possible? Ces exposés intellectuels seraient tellement mielleux que ça séduirait les gens. Ces paroles d'évangile, ces hommes-là peuvent manier la parole de telle sorte qu'ils pourraient presque amener toute personne intellectuelle, si elle se fie uniquement à leur intellectualisme, à désapprouver le Saint-Esprit et à suivre la voie de l'homme. Nous voyons ça. Or, c'est la même chose qu'ils ont pensé au sujet de Joseph, et ils se sont débarrassés de lui. Et, oh, là-bas en Égypte, oh, comme nous pouvons nous imaginer, comme je pourrais passer des heures là-dessus. On pourrait rester là pendant 3 ans, jour et nuit, sans jamais quitter ce sujet, et continuer à trouver des précieuses pépites du Saint-Esprit. La pensée spirituelle peut regarder en Égypte et voir la persécution survenir. Elle peut voir Joseph être emporté pour que la persécution survienne. Et ensuite, voir Dieu avec sa roue au milieu des roues, voir tout se mouvoir parfaitement, voir Potiphar rejeter Joseph, voir ce mensonge être dit, et voir Joseph en prison, sa barbe qui a poussé, excommunié par ses frères. Mais alors, tout à coup, Dieu qui intervient. Vous voyez? Comme nous pouvons voir cette roue au milieu des roues se mouvoir. Le glorieux plan de Dieu qui fait tout concourir à cet exode. À ce moment où il appellerait son peuple à retourner de nouveau dans ce pays, à retourner à sa place, à sa position où il pourrait les bénir et placer parmi eux celui qu'il avait promis qu'il placerait parmi eux. Il fallait qu'ils soient dans leur pays. Souvenez-vous, il fallait qu'ils sortent du pays où ils étaient et qu'ils entrent dans le pays de la promesse avant que le Messie qui leur avait été promis vienne. Et il faut que l'Église fasse la même chose, sortir de ce groupe de ceux qui rejettent cela et entrer dans la promesse avant que le Messie puisse se manifester devant eux. Vous voyez cela? La vie du Messie qui se manifeste et prépare une église, une épouse, une femme qui épouse un homme et est en désaccord avec lui. Ils auraient des prises de bec tout le temps. Mais quand un homme et sa femme, sa petite amie, sa fiancée, quand ils sont en parfaite harmonie, ils sont comme une seule âme et un seul esprit, parce qu'ils vont devenir une seule chair. Alors, quand l'Église pourra entrer dans cette sorte d'harmonie avec Dieu, à ce moment-là, l'époux, pour se manifester, se manifestera dans l'épouse, puisqu'ils seront devenus un. Oh, quelle grande leçon! Très bien. Or, souvenez-vous, la pensée spirituelle qui saisit ceci peut voir le type et l'antitype et comprendre. Là-dessus, on pourrait passer des heures et observer ce qui se passe. Alors, pourquoi avons-nous attendu toutes ces années, pendant cette oasis du temps? Vous savez, la Bible dit que l'Église s'était enfuie au désert, où elle était nourrie pendant un temps et des temps. Pourquoi tout cela est-il arrivé? C'est pour que nous, voyez, c'est toujours les roues de Dieu au milieu des roues. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ça il y a longtemps, quand les hommes et les femmes s'asseyaient avec des crayons et essayaient de calculer le temps, comme Judge Rutherford et beaucoup d'autres pour qui Jésus allait venir en 1914, et Mère Shipton, elle, c'était bien plus tôt que ça, et ainsi de suite, toutes ces fois-là. Et voyez-vous, en se fiant à ça, à ce qu'ils ont cherché à comprendre par l'Écriture, voyez-vous, ils ont tout gâché. C'est caché. C'est effectivement caché. Comment l'Écriture pourrait-elle s'opposer à elle-même? Car Jésus a dit, personne ne connaît ni la minute ni l'heure. Voyez? Voyez? Ils prennent juste un passage de l'Écriture et s'y accrochent. Il faut prendre l'ensemble. Et si Dieu est là-dedans, alors Dieu manifestera cela comme étant la vérité, comme la guérison divine. Si ce n'est pas la vérité, alors ce n'est pas la vérité. Dieu n'aura rien à voir avec cela. Mais s'il manifeste cela comme étant la vérité, alors c'est la vérité. Comme Jésus, Dieu a dit, « S'il y en a un parmi vous qui soit prophète ou spirituel, je lui parlerai. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le. » C'est ça. Mais si sa prophétie est fausse, alors Dieu ne peut pas se tromper. Il est infini, infaillible, omnipotent, et il ne peut pas se tromper. Donc, si c'est l'homme qui parle, alors ça dévoile cet homme. S'il a prononcé ses propres paroles, elles failliront. Mais s'il prononce les paroles de Dieu, ça ne peut pas faillir, parce que c'est Dieu qui parle. Alors, son inspiration vient de Dieu, et ça va, ça doit forcément être vrai. Voilà comment Dieu a dit qu'on reconnaîtrait cela. Voilà comment la Bible, dans l'Ancien Testament, il a dit, s'il ne parle pas selon la loi et les prophètes, c'est parce qu'il n'y a aucune vie en eux, aucune lumière en eux. C'est vrai. Ils doivent parler selon la loi et les prophètes. Une prophétie ou toute autre chose doit être selon la parole. Sinon, c'est faux. Voyez? Donc, nous voyons que tout cela est arrivé à cause de cette attente. Les méthodistes, les luthériens, les baptistes, les campbellites et tous les autres ont eu des réveils. Ils ont eu de grands réveils. Les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les pentecôtistes, ils ont tous eu de grands réveils. Mais le grand exode ne s'est pas produit. Pourquoi? Dieu avait dit à Abraham qu'il le garderait dans le pays à ce moment-là, mais que là, l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Et Dieu a attendu patiemment. Ces gens qui cherchent à comprendre, ils voient les Écritures converger vers quelque chose. Elles convergent vers quelque chose. Alors ils disent, voici le jour, voici le moment. Mais ils ne comprennent pas que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ils devaient séjourner en Égypte pendant 400 ans, puis en sortir. Mais en fait, ils ont passé 440 ans pour avoir rejeté le prophète. Ils ont dû souffrir encore une quarantaine d'années de plus, là-bas, dans le désert, avant que Dieu les fasse sortir. Moïse est resté dans le désert pendant 40 ans avant de retourner pour les libérer. Vous voyez? 40 ans de plus se sont écoulés parce qu'ils avaient rejeté le message. Or, 40 ans, selon le temps de Dieu, ce serait environ 1 minute et demie. Selon notre temps. Voilà à quel point c'est différent. 1000 ans ne sont qu'un jour. Voyez, ça ne serait même pas 1 minute à peine. Remarquez bien cela. Maintenant, il se fait tard. Pourquoi ? Dieu a été patient. Il a attendu. Il a observé. Il a fait entrer les luthériens dans un réveil. Puis, ils se sont organisés. Il a fait entrer les méthodistes dans un réveil. Ils se sont organisés. Il a fait paraître John Smith, l'église baptiste, avec un grand réveil. Ils se sont organisés. Il a suscité les pentecôtistes avec la restauration des dons. Ils se sont organisés jusqu'à ce que l'iniquité arrive vraiment à son comble. Alors Dieu en a assez. Et là, un exode se produit. Et nous voyons ça, que les gens eux-mêmes peuvent parcourir rétrospectivement le cours du temps et voir que c'est une chose maudite. Ils ont de nouveau pris un lingot et un beau manteau de Shinéar. Et c'est ça qui attire la malédiction parmi les gens. Quand les hommes essaient d'injecter leurs propres idées dans des choses, nous devons nous en tenir à cette parole. En fait, le commandement de Dieu, c'était « Ne rien toucher dans cette ville-là, cette ville maudite. N'y touchez pas, laissez tout. » Et Achan s'est dit qu'il pouvait prendre ce lingot d'or pour mener une vie assez confortable comme le reste du monde. Et ce beau manteau de Shinéar. Oh, à vous, les Achans, qui sont dans les camps. Voyez, mais la chose est maudite. Elle est maudite à jamais. Elle était maudite dès le départ au concile de Nicée, à Nicée, Rome. Elle est maudite depuis lors. Mais Dieu a laissé l'iniquité être à son comble jusqu'à ce que le temps des Amoréens soit presque écoulé. Et maintenant, toute personne qui a une intelligence spirituelle, souvenez-vous, je ne cesse de le répéter, l'intelligence spirituelle peut voir que l'iniquité de cette nation est à son comble. Elle s'est organisée, s'est réorganisée, s'est organisée et s'est organisée encore. Et maintenant, elle est dans une confédération et se joint à autre chose. L'iniquité est à son comble. Il est temps d'avoir un exode. Il est temps d'avoir la paix à sortir pour le pays promis. Non pas la promesse de partir pour un autre pays, mais pour une demeure, le millénium. Il est temps d'avoir un appel à sortir. L'iniquité de cette nation, je reparlerai encore ce soir si le Seigneur le veut, est à son comble. Elle est souillée. Vous dites, frère Branham, la nation dans laquelle vous vivez? Oui, monsieur, certainement. Vous dites, en tant que citoyen des États-Unis, vous ne devriez pas dire ça. Dans ce cas, Élie n'aurait pas dû faire venir une malédiction sur Israël, alors qu'il était un Israélite. Tous les autres prophètes n'auraient jamais dû maudire cette nation, puisqu'ils étaient eux-mêmes Israélites. Mais ils ont tout simplement prononcé, non pas leur propre pensée, mais la parole du Seigneur. Voyez, tout dépend de là où vous tirez votre inspiration. Tout dépend de la façon dont ça vient. Si c'est contraire à la parole, laissez ça de côté. Alors je demande à quiconque de prouver que cela est contraire à la parole. La Bible ne dit-elle pas dans Apocalypse 13? C'est là que cette nation apparaît. Cette nation, c'est le nombre 13. C'est une nation de la femme. C'est une femme dans la Bible. On a le portrait d'une femme sur notre monnaie. C'est une nation de la femme. C'est ici que la pourriture des femmes débute, commence. C'est ici qu'elle se termine. La pourriture a commencé en Éden, par l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu. C'est ici qu'on a produit des femmes prédicateurs et tout. La souillure du monde vient tout droit d'Hollywood, la pire nation au monde. On a plus de divorces que dans tout le reste du monde. Voyez, pourquoi? Vous le verrez un de ces jours, si le Seigneur le veut. Vous verrez le pourquoi de cette chose maudite. Avec cette histoire du divorce, on peut voir l'aveuglement dont Satan a frappé les yeux des gens. Nous sommes dans une heure terrible. Notre fin est très près maintenant, je crois. Tout est pourri, pourri jusqu'à la moelle. Elle apparaît dans Apocalypse 13, le nombre 13. Et souvenez-vous, elle a paru comme un agneau, avec la liberté de religion. Mais ensuite, il a reçu le pouvoir de la bête, une image semblable à elle. Puis il a parlé avec toute l'autorité et a fait les mêmes choses pourries que la bête avait faites avant lui. Me direz-vous donc que cela n'a pas été prophétisé au sujet de cette nation? La situation des Amoréens est presque à son paroxysme, puisque cela agit déjà en eux. Et même notre nouveau pape, son objectif principal, c'est d'unir les frères. Et aux yeux de l'homme naturel, c'est la chose à faire. Mais aux yeux de Dieu, c'est contraire au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous mêler à cela. Et toutes les églises seront appelées à entrer dans cette fédération. Sortez de cette chose-là, aussi vite que possible. Vous allez prendre la marque de la bête, sans savoir ce que vous faites. Sortez de là. J'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous, oui, mais là-bas, je me le demande. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. On peut y envoyer les bondes. Dieu aura un moyen de se saisir de cette pensée là-bas, là où cette semence a été semée. C'est vrai. Et dès que la lumière la frappe, c'est parti. Elle prend vie, comme la petite femme au puits qui a dit « Voilà, c'est ça ». Elle a saisi. Sortez de cette chose-là. Elle est maudite. Maudite ? Indiquez-moi où une seule s'est relevée une fois tombée. Indiquez-moi une seule qui se soit élevée et qui ne soit pas tombée. Donc, on peut voir que cette chose est fausse. Très bien. L'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. De ce fait, ils avaient dû attendre et languir avant leur exode. Mais quand l'iniquité des Amoréens a été à son comble, alors l'exode spirituel s'est produit, ou plutôt l'exode naturel, ce qui a conduit le peuple à un pays naturel. Les Amoréens naturels y avaient habité à un moment donné et l'avaient appelé leur pays. Et leur iniquité, la dénomination des Amoréens déclarait être l'Église depuis si longtemps, au point que leur iniquité est presque à son comble. Il viendra un exode où Dieu montrera qui est qui, où l'Église elle-même, l'épouse de Jésus-Christ, sera emportée dans cet exode pour aller vers le pays qui a été promis. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dans ce lieu-là. On n'aura pas à se battre comme eux quand on y arrivera. Elle est déjà préparée. Si cette tente, cette demeure où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le grand exode est proche. Observez comment Dieu a fait pour cet exode-là, les préparatifs qu'il a faits. Examinez ça un instant, puis considérez aujourd'hui. Très bien. Remarquez, avant cet exode-là, il s'éleva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Voyez, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Il n'avait pas connu Joseph. Qu'est-ce que Joseph représentait? La partie spirituelle de cet exode spirituel. Si, il s'élève maintenant. Nous avons la liberté. La femme a été nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais finalement, il s'est élevé un dictateur de Pharaon qui ne connaissait pas la liberté de religion. Il les a unis. Que cela ne vous échappe pas. Il y a eu un temps où un Pharaon devait venir premièrement. Et les organisations menaient une vie somptueuse. Elles vivaient comme une branche greffée dans le vrai cep du christianisme, mais qui porte encore ses fruits originels. Les femmes à moitié habillées, les hommes, des intellectuels qui renient la puissance de l'esprit. Mais ça se fait sous le couvert d'une église chrétienne. C'est une vigne greffée. Mais là, le vigneron vient déjà pour émonder cette vigne, comme il a dit qu'il le ferait. Toute branche qui ne porte pas du fruit est retranchée, jetée au feu et consumée. C'est affreux à dire, mais parfois la vérité semble affreuse, comme je viens de vous le dire. Dieu fait passer ses enfants à travers les eaux profondes, les bourbiers et tout. C'est comme ça qu'il s'y prend. Souvenez-vous, le vase d'argile doit être brisé, les gerbes, les petits morceaux doivent être façonnés à nouveau et réduits en poussière. Ça a l'air d'être une chose terrible de le détruire. Mais c'est ce qu'il faut faire pour de nouveau fabriquer le pot, le vase ou toute autre chose que vous fabriquez. Il s'est élevé un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et ça, c'était le commencement du commencement. C'était le commencement de l'Exode. Et quand cette chose a commencé à prendre forme par un pouvoir politique, quand elle a commencé à prendre forme, Dieu s'est mis à se préparer. L'iniquité des Amoréens était à son comble. Le temps qu'il avait promis à Abraham était accompli. Et le temps de la libération était proche. Et Dieu a permis qu'il s'élève un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et Ramsès est né. Juste après Séti, Ramsès est venu. Et Ramsès, c'est celui qui ne connaissait pas les bénédictions de Joseph. Et il ne savait pas ce qu'était le côté spirituel. Il était simplement un génie politique qui a pu s'emparer de l'Éthiopie et de tous les autres pays par la force des armes. C'est tout ce qu'il savait, la force des armes. Et je pense que si quelqu'un était spirituel, il verrait ce qui se passe actuellement. Nous avons un pharaon qui ne connaît pas la liberté de religion. Quand notre président a pris ses fonctions, il n'a pas voulu déclarer ça sous serment qu'il croyait à la liberté de religion. Que dire de l'autre jour, quand on a eu ce problème de ségrégation dans le Sud, quand ce gouverneur de l'Alabama, je voudrais bien pouvoir parler à ce ministre, à Martin Luther King. Comment cet homme peut-il être un conducteur et conduire son peuple dans un piège mortel? Si ces gens étaient des esclaves, je serais là-bas, je ferais tout ce que je peux, je me battrais pour ces gens-là. Ce ne sont pas des esclaves, ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens de la nation. Le problème de la scolarisation, ces gens, s'ils ont un cœur dur et qu'ils ne savent pas ces choses, on ne peut pas introduire des choses spirituelles dans un peuple qui vibre au rythme du pouvoir politique. Il faut qu'ils acceptent ça, qu'ils naissent de nouveau. C'est alors qu'ils verront ces choses. Mais cet homme-là, si seulement je pouvais lui parler, il conduit ce précieux peuple, sous le couvert de la religion, dans un piège mortel, où il va faire tuer des milliers de milliers d'entre eux. Ils n'en saisissent que le côté naturel. Cet homme, le frère de couleur, quand il y a eu ce grand soulèvement en Louisiane, j'étais là-bas à ce moment-là, quand il y a un ministre de couleur, un précieux vieux frère, qui s'est levé là-bas et a demandé à la milice, « Est-ce que je peux leur parler? C'est mon peuple. » Et ce vieux ministre s'est levé là-bas. Il a dit, « Ce matin, je voudrais dire que je n'ai jamais eu honte de ma couleur. Mon Créateur m'a fait tel que je suis. » C'est comme ça qu'il veut qu'il demeure. C'est comme ça qu'il veut que tout homme demeure. Il crée des fleurs blanches, des fleurs bleues et des fleurs de toutes les couleurs. Ne les hybridez pas, ne les croisez pas. Vous irez à l'encontre de la nature. Il a dit, « Avant ce matin, je n'ai jamais eu honte de ma couleur. » Il a dit, « Quand je vois mon peuple se soulever et faire ce qu'ils font maintenant, » a-t-il dit, « J'ai honte d'eux. » Je me suis dit, « Que Dieu bénisse cette voix. » Il a dit, « Vous allez seulement causer des ennuis. » Il a dit, « Regardez ces écoles-ci. Si on n'avait pas d'école, » a-t-il dit, « Ce serait différent. Mais qui a les meilleures écoles, ici, en Louisiane ?» Il a dit, « Prenons par exemple notre ville, Shreveport. » Il a dit, « Il y a une école pour les Blancs là-bas. C'est une vieille école. Ils nous en ont construit une autre. Eux, ils n'ont pas un seul instrument, pas un seul jouet pour les enfants. Nous, on en a plein dans la cour. En plus, ils ont construit une belle et grande piscine en marbre pour nos enfants. Et nous avons les meilleurs enseignants qu'on puisse trouver. » Il a dit, « Pourquoi voulez-vous aller là-bas, alors que nous en avons une meilleure ici? Qu'est-ce qui vous arrive ?» a-t-il dit. Et ces gens se sont écriés, « Rah !» Ils ont étouffé cette voix. Voilà, voyez-vous, une fausse inspiration. Si ces gens étaient des esclaves, ce sont mes frères et sœurs. S'ils étaient des esclaves, je dirais, « Joignons-nous à eux, allons dans la rue et protestons contre ces choses. » Ce ne sont pas des esclaves. Ce sont des citoyens qui ont les mêmes droits que tout le monde. Ce ne sont que des inspirations qui viennent de l'enfer pour faire tuer un million d'entre eux. Ils déclenchent un mouvement révolutionnaire. Certainement, ce n'est pas bien. Les hommes et les femmes ont leurs droits. Nos frères de couleur, nos Japonais, les jaunes, les blancs, les noirs, peu importe ce qu'ils sont, il n'y a pas de différence de couleur pour Dieu. Nous venons tous d'un seul homme, Adam. Mais si Dieu nous a séparés et nous a donné différentes couleurs, restons comme ça. Si j'étais un homme de race jaune, je voudrais rester japonais ou chinois. Si j'étais un homme de couleur, je voudrais rester comme ça. Dieu m'a créé comme ça. Franchement, il y a beaucoup de qualités que possède la race de couleur, que la race blanche devrait avoir. Ils n'ont pas d'inquiétude. Ils sont plus spirituels. Il y a mille choses à leur sujet que l'homme blanc n'arrivera jamais à avoir. Dieu les a créés ainsi. Qui donc pourrait chanter mieux qu'une chorale de gens de couleur? Où trouveriez-vous ces voix? J'en ai vu qui sont venus de ces pays là-bas. Ils ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. 30 ou 40 tribus différentes. Elles ont chanté au point que le chef de chœur s'est levé et a dit « Je n'ai absolument rien à redire là-dessus ». Il avait formé des chorales pendant des années, et quand l'un était une octave plus haut, l'autre était plus bas, et ainsi de suite. Il a dit « J'ai écouté ça, c'était vraiment parfait, quoique dans une langue étrangère. Ils sont doués. » Mais vous voyez, tout ceci doit arriver. Tout cela à cause d'un politicien que vous avez élu avec vos machines truquées. Et l'autre jour, eh bien, ce gouverneur s'est tenu là, lui qui a été assermenté et élu à ce poste par le peuple. Face à ce problème de ségrégation dont, selon la Constitution, il revient à chaque État de prendre ses propres décisions à ce sujet. Lui, ça lui était égal, mais il a lu la Constitution et a dit « Maintenant, l'école soutient la ségrégation ». Ils ont une école là-bas, et deux enfants de couleur seulement désiraient fréquenter cette école, alors qu'ils ont leur université à eux. Mais il s'est levé et il a dit « Quoi ?» Il a même lu la Constitution. Et quant à cet homme que nous avons ici, il ne connaît pas Joseph, la liberté. Il sollicitait les suffrages de ces gens de couleur, ignorant qu'au départ, c'est le Parti républicain qui les a libérés. Ils vendent leur droit d'aînesse pour une chose pareille, pour être conduits dans un piège mortel. Cela montre que tout système fait de main d'homme doit s'effondrer. C'est tout à fait vrai. Et M. Kennedy a fédéralisé cette garde, ce qui a amené ces hommes à faire face à leur propre père qui était là, à défendre la Constitution. Cela a de nouveau brisé la Constitution. Il a dit, « Nous ne nous battrons pas, non, monsieur. » Et il a ajouté, « J'espère que la nation voit que nous ne sommes plus en démocratie, mais en dictature militaire. » Vous connaissez le vieil adage, « Démocrate du Sud un jour, démocrate du Sud toujours. » Là, je ne sais plus. Ah oui, quelqu'un aura certainement assez de bon sens pour prendre conscience de quelque chose. Voyez, laissez ce précieux peuple tranquille. Ne les tuez pas là-bas, comme ce gars qui a tué ce frère d'une balle dans le dos l'autre soir, avec cette arme à feu, alors que ses jeunes enfants et sa femme étaient à la maison. Peu importe celui qui a fait cela, c'est mesquin et c'est minable. Oui, monsieur, je voudrais bien qu'on me nomme juge dans cette affaire-là. Oui, oui, tirez sur cet homme qui rentre chez lui pour voir sa femme et ses enfants. C'est un citoyen, il a le droit de défendre ce qu'il pense être juste. C'était un brave homme. Et cette photo de ce petit garçon dans le magazine Life, qui réclamait son papa en pleurant. Ce renégat-là lui avait tiré une balle dans le dos, dans un guet-apens. C'est là qu'on en arrive, quand on rejette Christ. C'est vrai, c'est là que tout le pays en est arrivé. Tout est devenu politique. Que c'est honteux, mais c'est ce que nous voulions. Nous l'avons démontré lors de cette élection. Ce matin, mon petit garçon m'a dit, « Papa, quand les pères pèlerins sont venus ici, étaient-ils tous membres de telle église dénominationnelle? Étaient-ils tous... » Il a dit, « Portaient-ils de grands manteaux ?» J'ai dit, « Non, mon trésor. Ils sont venus ici pour avoir la liberté de religion. Voilà pourquoi ils sont venus ici. Pour sortir de ce genre de choses. Vous voyez où on en est maintenant? Ça montre que tous ces royaumes doivent s'effondrer. Il faut que je me dépêche. Une chose pour laquelle je prie, c'est que frère Martin Luther King ne tarde vraiment pas à se réveiller. Il aime son peuple, il n'y a pas de doute. Mais si seulement il voyait la source de son inspiration, ça servirait à quoi d'aller à l'école si un million d'entre vous étaient couchés là, morts? Aller à l'école serait encore pareil, n'est-ce pas? Or, pour la faim, si c'était pour quelque chose d'autre, l'esclavage, cet homme serait un martyr pour avoir donné sa vie pour une telle cause, pour une cause valable. Et ça, ce serait une cause valable. Mais juste une question de scolarisation, je ne vois pas ça. Voyez, je ne pense pas du tout que le Saint-Esprit soit d'accord avec lui à ce sujet. Cela a emballé les gens dans un bon bourrage de crâne, vous voyez. Tout comme a fait Hitler en Allemagne, il les a conduits directement dans un piège mortel. Ces chers Allemands, ils ont été entassés par milliards, ou plutôt par millions, empilés les uns sur les autres. Et c'est exactement la même chose. Et souvenez-vous, on m'enregistre. Vous verrez cela plus tard, peut-être après mon départ. C'est exactement ce qui va se passer. Ces précieuses gens mourront là-bas, comme des mouches. Un mouvement révolutionnaire va se déclencher, les blancs et les gens de couleur se battront de nouveau. Ils mourront comme des mouches. Et qu'est-ce que vous aurez obtenu quand tout sera terminé? Un tas de cadavres. Mais il s'éleva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est la même chose aujourd'hui. Il s'est élevé un homme qui était assermenté à la Maison Blanche, qui ne veut pas prêter serment. Déclarer sous serment qu'il croit à la liberté de religion. Que dit ce nouveau pape? L'une, pour lui, il y a quatre choses. L'une d'elles, c'est d'unir les protestants et les catholiques. Et pour toute personne intellectuelle, c'est la chose à faire. Mais selon la Bible, c'est la chose à ne pas faire. Et la Bible dit que c'est ce qu'ils feront. Avançons encore un peu. À cette époque, Ramsès, en Égypte, montait en puissance. Son pouvoir s'étendait. L'homme naturel, Ramsès, montait en puissance. L'homme naturel, l'Antichrist, monte maintenant en puissance. Par la politique, il a déjà atteint la Maison Blanche. Côté religion, il a tellement embrouillé tous les gens qu'ils sont effectivement prêts à tomber dans le panneau. Et les chefs des dénominations, pratiquement toutes les églises de la nation, font déjà partie de la Confédération des Églises. Ramsès monte en puissance. Elles s'unissent toutes entre elles. Et voilà ce qu'elles auront. Quel résultat? Cela crée un pouvoir, une bête, tout à fait semblable à la première. Ensuite, il y aura une persécution contre tous ceux qui ne s'uniront pas à elles. Et un boycottage. À ce moment-là, il sera trop tard. Vous aurez déjà pris la marque. Ne dites pas, à ce moment-là, j'agirai. Vous avez intérêt à agir maintenant. Ramsès montait en puissance. Mais souvenez-vous, pendant que le pouvoir de Ramsès s'étendait en Égypte, Dieu avait Moïse, là, dans le désert. Lui aussi, il montait en puissance. Ramsès avait un système politique. Dieu avait un système spirituel, par un prophète, prêt à descendre là-bas pour parler au peuple. Tous les deux montent de nouveau en puissance. Il y aura une épreuve de force un de ces jours. Ce temps-là où il y aura une épreuve de force n'est pas loin. Comme le naturel, comme le dit l'Écriture, le naturel est un type du spirituel. Vous ne pourrez pas y échapper. Voilà, c'est ça. C'est en plein devant vos yeux. C'est la vérité. Regardez maintenant l'Église qui appelle, qui prend le pouvoir, le Saint-Esprit qui descend, les mystères de Dieu qui sont révélés et mis en ordre. Voyez? Et là, c'est déjà à la Maison Blanche. Et l'Église se rassemble. Amen. Pas une dénomination. Loin de l'esclavage des iniquités. Loin des Amoréens. C'est un peuple libre. Oh, Dieu avait Moïse, son futur prophète. Même s'il avait déjà prophétisé et que cela avait confirmé qu'il avait raison, il était malgré tout à l'école du désert, caché. Loin du reste du monde. Mais il recevait l'instruction, la formation, dans le désert. L'ennemi proposera toujours son système, et l'incrédulité l'acceptera, parce que le signe de l'ennemi, c'est l'intellect. Or, souvenez-vous, il n'y en a que deux. N'oubliez pas ça. Il n'y a que deux puissances. L'une, c'est la puissance spirituelle du Saint-Esprit. L'autre, c'est le diable qui agit par la puissance intellectuelle. En effet, c'est par là qu'il est entré dans le jardin d'Éden, par la puissance intellectuelle, pour faire croire à Ève une conception intellectuelle contraire à la parole. C'est tout ce qu'il y a de plus clair. Les enfants pourraient le comprendre. Voyez ? Voyez, et c'est ce qu'il en a toujours été, jusqu'à ce jour. La voilà en Égypte ce matin. Il y a une puissance intellectuelle qui agit en Ramsès, qui lui fait accéder au pouvoir, et elle l'élève, lui qui ne connaît pas la liberté, pour préserver ce que Joseph avait fait, ce que l'Église avait fait au début. Et maintenant, nous voyons la même chose, une puissance intellectuelle qui se glisse dans les Églises, et s'est élevée vers un chef ecclésiastique, qui ne s'intéressent pas à ce que la Bible dit. Ils ont leur propre système. Ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que l'Église dit. Et les protestants se sont jetés là-dedans, au point que tous leurs petits groupes disent, « Mais oui, eh bien, je sais qu'elle dit ça, mais je vous le dis, ces jours-là sont passés, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. » Chaque écriture de la Bible indique clairement cela. Vous voyez maintenant pourquoi je désire enregistrer cela et l'envoyer aux gens. L'heure est venue. La vérité doit être connue. L'Exode est proche. Voyez, du côté intellectuel, tout semble parfait. Et c'est parfait, tout à fait. Mais c'est parfait par l'inspiration de Satan. Et puis, pendant tout ce temps, cet intellectuel de Ramsès montait en puissance et se rapprochait du trône. Et souvenez-vous, il avait grandi comme un frère pour Moïse. Voyez-vous, un frère pour Moïse. L'un d'entre eux devait occuper le trône intellectuel, tout comme Joseph pour ses frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du petit Joseph? Ils l'ont excommunié. Ils ont quitté la parole. La parole, c'est Dieu. Et ils ont excommunié la parole pour accepter un credo. Maintenant, le credo est monté en puissance. Oh Dieu, puissent les gens voir ça! Comment puis-je utiliser ma voix davantage? Comment puis-je le rendre plus clair par les Écritures, par l'inspiration du Saint-Esprit, que nous en sommes là? Oh, dites-vous, bon, si cela venait du pape Jean, ou du pape un tel, ou de l'évêque un tel. Voyez-vous que Dieu a pris quelqu'un d'insignifiant, un tout petit habitant du désert? Vous dites, comment tout cela peut-il être faux? Dieu traite avec un individu. Pas avec des groupes, avec un individu. Dieu prend il prend son homme. Tout ce qu'il lui fallait, c'était un seul homme par lequel il pouvait agir. Voilà tout ce qu'il lui faut, un homme. Il essaye d'en trouver un dans chaque âge. S'il pouvait trouver un seul homme, il a trouvé un homme à l'époque de Noé, un homme à l'époque d'Élie, un homme à l'époque de Jean-Baptiste, un seul homme, c'est tout ce qu'il lui faut. À l'époque des juges, il a cherché à trouver un homme, Samson. Il lui avait donné un grand pouvoir, mais il l'a vendu à une femme et on l'a rendu aveugle. Ils étaient des juges, ce n'était pas bien. C'est Dieu qui est le juge, voyez? Vous voyez, aujourd'hui, il cherche un homme qu'il peut avoir dans sa main, qui dira la vérité, qui ne reculera devant rien pour cela, qui ne prendra pas de gants, qui ne sera pas dogmatique. Un homme qu'il peut tenir dans sa main pour montrer qu'il est vivant et que sa parole est vivante. Je crois qu'il pourrait préparer une telle personne. Oui, je le crois. Je crois suffisamment la Bible pour croire qu'il pourrait le trouver. C'est vrai, celui qui dirait la vérité. Au bout d'un certain temps, nous voyons, après avoir terminé toutes ces formations, maintenant, regardez bien. L'ennemi propose quelque chose. La pensée intellectuelle, parce que l'ennemi agit sur l'intellect. Et cette pensée va s'installer, et vous vous mettez à raisonner, et dire, « Hé, un instant là, n'est-ce pas qu'un conseil ?» L'autre jour, j'ai parlé à un homme, il a dit, « Écoute, Billy, il travaille pour l'entreprise de services publics, un homme bien. » Et il a dit, « Je veux te demander quelque chose. » Il a dit, « Tu es Irlandais. » J'ai dit, « Oui, monsieur. » J'ai dit, « J'en ai un peu honte, mais malgré tout, je le suis. » Et il a dit, « Eh bien, a-t-il dit, ne sais-tu pas que tu devrais vraiment, vraiment être un catholique ?» J'ai dit, « Je le suis. » Ah oui, un catholique originel. Ah oui, vous savez, la première église était l'église catholique. Vous voyez où elle en est aujourd'hui? Elle a commencé à la Pentecôte, mais l'organisation l'a amenée où elle se trouve maintenant. Regardez les pentecôtistes, ils ont fait volte-face, se sont organisés et ont fait la même chose que la première église catholique. Et aujourd'hui, ils en sont presque aussi loin que les autres l'ont été en 2000 ans. En 50 ans, ils ont presque atteint leur niveau. Voyez, il a dit, « Ne crois-tu pas que quand un groupe de gens ayant un esprit œcuménique, voilà, se réunissent et discutent de quelque chose, et que le groupe tout entier s'accorde, ne penses-tu pas qu'il serait un peu... En effet, moi, je viens t'entendre prêcher, a-t-il dit, mais je ne suis pas d'accord avec toi. » Et j'ai dit, « La seule façon de prouver que ton point de désaccord est logique, c'est de le prouver par la Bible. » Il a dit, « La Bible n'a rien à voir avec ça. » J'ai dit, « Pour toi, elle n'a peut-être rien à voir, mais pour moi, elle a tout à voir avec ça. » Tu vois, elle est la parole. Et il a dit, ne penses-tu pas qu'un groupe de gens ayant un esprit œcuménique, s'ils se réunissent, ils pourraient avoir plus raison et s'assurer d'avoir effectivement raison qu'un seul petit bonhomme sans instruction comme toi? Et j'ai dit, eh bien, il a dit, qu'est-ce que tu as à t'en prendre à cette vie ou à notre église? Alors qu'à travers les âges, ils ont... Pourtant, ce sont eux qui ont tenu le premier concile de l'Église, dont tu as parlé là, un soir, quand il a entendu ça, les âges de l'Église, le concile œcuménique qui s'est tenu à Nicée, à Rome, et qui avait donné naissance à l'Église catholique romaine. Il a dit, « Ne sais-tu pas qu'il y avait des milliers d'hommes spirituels envoyés par Dieu qui prenaient part à ce concile? Et ne penses-tu pas que leur pensée serait plus apte à connaître la volonté de Dieu que la tienne ici, après que Dieu a prouvé pendant 2000 ans que cette Église a raison? » J'ai dit, il ne l'a jamais prouvé. J'ai dit, si cette Église est une Église de Dieu, que nous la voyons produire la même chose que la première Église en son temps, que nous la voyons produire les choses qu'ils ont faites la première fois, alors que même la Bible dit, même pas un seul trait de lettre, ni un seul iota d'elle ne faillira. Il a dit, quiconque retranchera un seul mot de ceci, ou y ajoutera un seul mot, sa part sera retranchée. Que ce soit le concile œcuménique ou quoi que ce soit, du livre de vie, il est fini. Il a dit, Billy, tu es simplement déraisonnable. Et j'ai dit, alors je pense qu'une fois, Israël avait une grande renommée, alors qu'ils étaient séparés comme les protestants et les catholiques aujourd'hui. Israël voulait rester Israël. Mais j'ai dit, nous voyons qu'ils avaient un roi nommé Josaphat, un homme juste, qui essayait d'observer les lois de Dieu. Mais ils en avaient un autre là, nommé Achab, qui avait épousé une femme pour des raisons politiques. Il cherchait à nouer une amitié avec une autre nation. Il avait épousé une de leurs filles, Jézabel, et l'avait emmenée parmi le peuple de Dieu. C'est la même chose que nous faisons. Et il l'a fait entrer. Et c'est elle qui gouvernait. Elle faisait dire ceci à Achab. Elle faisait dire cela à Achab. La même chose qu'ils font maintenant. Et j'ai dit, l'épreuve de force est arrivée. Ils voulaient unir les deux églises, comme ils cherchent à faire maintenant. Et Achab, et même Josaphat, l'homme des organisations, a dit, « Oui, ce sera bien. Ton peuple est mon peuple. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous croyants. Réunissons-nous. » Mais quand il est arrivé à l'épreuve de force, il a dit, « Ne penses-tu pas que nous devrions aller en prière à ce sujet? Nous devrions consulter l'Éternel. » Et il a dit, « Oui, a dit Achab. » Alors il a dit, « Je vais te dire une chose. Consultons le prophète de l'Éternel. » Mais voyez-vous, Achab avait un système, et il pensait que ça venait de l'Éternel. Il a dit, « J'en ai 400, instruits et formés. » Et ils prétendent être des prophètes hébreux, comme le font les groupes de ministres aujourd'hui. Ils les ont fait venir et leur ont posé une question au sujet de l'issue de la bataille. Et ils se sont tous mis ensemble. Ils se sont unis, comme le fait aujourd'hui le conseil œcuménique. Et on leur a posé la question. Monte, l'Éternel est avec toi, car ce pays nous appartient certainement. Chasse les Syriens de là, ou les Philistins. Chasse-les, parce que ce pays nous appartient. Ça a l'air très raisonnable, voyez. Et pourtant, au fond du cœur de Josaphat, ça ne sonnait pas juste. Il a dit, je sais que là, tu as 400 ministres œcuméniques bien formés, et qu'ils sont tous d'un commun accord, au point qu'ils se sont fait une paire de cornes de fer, et ont dit, ainsi dit le Seigneur. Mais pourrait-on en trouver un autre? Il a dit, que le roi ne parle pas ainsi, a dit ce politicien. Que le roi ne parle pas ainsi, parce que ces hommes sont des hommes formés. Je les ai formés moi-même. Voilà tout, voyez, voilà tout. C'est moi qui ai formé ces hommes. Mais il y en a encore un, mais je le hais. Voyez, il a dit, c'est Miché, fils de Jimla, mais, a-t-il dit, je le hais. Ce n'est rien d'autre qu'un renégat parmi eux. Il est toujours en train de les engueuler. Il me dit toujours que j'ai tort. Regarde mon royaume. Oui, regardez-le. Regardez dans quel gâchis il était. Regardez votre dénomination aujourd'hui, ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force. Voyez ? Oh, vous êtes peut-être un million de plus, mille de plus, des hommes mieux formés. Mais où en êtes-vous quant à l'esprit ? Où se trouve votre force ? Comme Samson, quand il s'était tenu là, comme je le disais l'autre jour, il avait toute sa grande stature, là, et toutes les fibres là-dedans. Mais elle n'avait pas de vie. L'esprit l'avait quitté. Il était sans défense. Un petit enfant le conduisait. Ses yeux étaient privés de la vue à cause d'une femme. C'est pareil pour l'Église aujourd'hui. Elle est conduite par la politique, les évêques, les anciens et toutes sortes de choses. Les hommes qui font des compromis pour obtenir des faveurs et tout. Où en sommes-nous? Alors, quand on arrive à ce point, ils ont envoyé chercher Jimla, ou le... Non pas Jimla, mais Miché, fils de Jimla. Ils l'ont envoyé chercher. Il a prophétisé. Elle leur a dit qu'Akab se ferait tuer s'il montait là-bas. Et cet archevêque l'a frappé à la bouche. Il était honnête à ce sujet. Il a dit, par où l'Esprit de Dieu est-il allé quand il est sorti de moi? Il a dit, tu verras. Oui, oui. Il a dit, mettez-le en prison, mettez-le au cachot, nourrissez-le du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Et quand je reviendrai en paix, a-t-il dit, je m'occuperai de cet homme. Et Jimla, il savait qu'il était en règle avec Dieu. Pourquoi? Sa vision concordait avec la parole. Il était un prophète. Et son esprit et sa vision concordaient parfaitement avec le prophète Élie. Il a dit, « Si jamais tu reviens, alors Dieu ne m'a pas parlé. » Donc, j'ai dit à cet homme, « Qui avait raison? Le conseil œcuménique, où 400 hommes élus étaient réunis, des gens élus par des hommes, ou un seul petit renégat élu par Dieu? » Eh bien, a-t-il dit, « Eh bien, comment faire la différence ?» J'ai dit, « Il faut retourner au plan. Comment saurait-on construire un bâtiment s'il n'y a pas de plan ?» S'ils s'étaient arrêtés un instant, ils allaient voir que ce prophète, Élie, avait maudit Akab, qu'il avait dit que les chiens lécheraient son sang. Et ils l'ont fait. Comment aurait-il pu bénir ce que Dieu avait maudit ? Comment pouvez-vous bénir quelque chose que Dieu a maudit ? Sortez de cette chose. Éloignez-vous-en. Entrez en Christ. Amen. Maintenant, remarquez. Mais l'ennemi fera une proposition. L'ennemi proposera une chose. Il la préparera. Et la pensée intellectuelle dira, c'est vrai, c'est là qu'était ce précieux frère. Cet homme, il a dit, c'est comme, écoute, tu sais, si on était tous ensemble, comme une seule église, ne penses-tu pas qu'on serait mieux que d'être dispersés comme nous le sommes maintenant? N'est-ce pas que ça semble raisonnable? Si tous les protestants et tous les catholiques pouvaient se réunir et arriver à un terrain d'entente, mais comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Comment est-ce possible? Quand ce groupe-ci ne croit pas à la guérison, l'autre dit qu'il y croit, et l'autre encore dit que c'était pour une autre époque. Certains ne croient même pas la Bible, et vous les mettez tous ensemble? Qu'est-ce que vous avez? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Avant que Dieu mette son Église en ordre, ils ont attendu pendant 10 jours et 10 nuits, jusqu'à ce qu'ils soient tous dans le même lieu, d'un même accord. C'est alors que le Saint-Esprit est venu pour les conduire, pas un conseil œcuménique. Voyez, j'espère que vous le saisissez. Remarquez, c'est l'incrédule, l'infidèle à la parole de Dieu, qui ne tient pas compte de ce que la parole dit, mais qui tient compte de ses propres raisonnements. C'est ce qu'Ève a fait au commencement. Elle s'est appuyée sur son raisonnement. Satan a dit, « Maintenant, regarde bien, n'est-ce pas raisonnable ? Je sais que la parole dit ça, mais un instant, n'est-il pas raisonnable là ? Là, vous seriez mieux si vous saviez distinguer le bien et le mal. » Eh bien oui, puis il a pris ça. Voyez, bien sûr, c'est pareil pour le raisonnement. Or, l'incrédulité se met toujours à raisonner, mais la foi s'en gardera. N'aurait-il pas été raisonnable pour notre père ? Abraham, c'est lui qui est le père de notre foi, et nous sommes ses enfants en Christ. N'aurait-il pas été raisonnable qu'une femme âgée de 65 ans, avec qui il avait vécu depuis qu'elle était jeune fille, ne puisse pas avoir un enfant ? Et quand elle a eu 100 ans, ou 90 ans, et lui 100 ans, elle n'avait toujours pas d'enfant. N'aurait-il pas été raisonnable qu'une excellente équipe de médecins et de scientifiques examine Sarah ? Ils auraient dit, « Mais son sein est desséché, les canaux lactaires sont desséchés depuis 40 ans. Son cœur, à son âge, elle ne pourrait pas entrer en travail. » Eh bien, ce ne sont que des raisonnements. Mais Abraham a refusé ça. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Contre les raisonnements, il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, peu importe ce que c'était. Car il estimait que Dieu était capable d'accomplir tout ce qu'il avait dit qu'il ferait. Or, où sont les enfants d'Abraham ce matin ? Vous, les ministres, qui craignez, vous craignez de perdre votre pain et votre eau, de vous retrouver dans la rue si vous quittez cette Babylone. Où est votre foi ? David a dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ne craignez rien, restez fidèles à Christ. » Mais l'incrédulité saisit le raisonnement. C'est ce qu'elle a fait. Vous saisissez maintenant ? L'incrédulité s'appuie sur les raisonnements, sur les choses de ce jour-ci. La foi ne le fera pas. La foi regarde la parole, mais la foi se place sur le rocher inébranlable, la parole éternelle de Dieu. Amen. La foi ne regarde pas le raisonnement. Peu importe combien vous me démontrerez que ce serait mieux. Si la parole dit non, c'est là que repose la foi. Voilà le sanctuaire du lieu de repos de la foi. Ce matin, je voudrais vous demander, à vous les luthériens, à vous les baptistes, à vous les catholiques, et à vous, qui que vous soyez, à vous les gens des dénominations du monde entier, comment pouvez-vous faire reposer votre foi sur votre dénomination alors qu'elle est contraire à la parole ? Quel genre de foi avez-vous ? Ce que vous avez, c'est la capacité de raisonner, et non la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, du conseil œcuménique. Pourriez-vous jamais, disons, il se pourrait que vous trouviez ça dans l'almanach des anniversaires des dames de l'âge d'or, mais vous ne le trouverez jamais dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dites-moi donc qu'un homme peut dire quelque chose contraire à ça, et dire que c'est la parole de Dieu, alors que les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera point. La foi trouve en la parole son sanctuaire de repos. Elle monte au sommet de ce rocher éternel, Jésus-Christ, la parole, se pose là et repose là-dessus. Que les vents hurlent, que les tempêtes secouent, elle est à l'abri pour toujours. Elle repose là, sur cette parole. C'est là-dessus que la foi chrétienne authentique, repose. Le lieu de repos, c'est la parole. Car elle sait que Dieu prouve toujours qu'il est supérieur, au-dessus de chacun de ses ennemis. Peu importe à quel point ça semble grave, à quel point l'ennemi est entré, et à quel point vous semblez vaincu, la foi s'y connaît toujours. Maintenant, à vous les malades. Oh, comme j'aimerais bien faire comprendre ça. Quand vous saisissez cette foi, et vous croyez que vous allez être guéri, toutes les circonstances, tout le reste, tous les signes, tous les symptômes peuvent indiquer que vous mourrez. Vous ne bougerez pas. Son lieu de repos est dans le sanctuaire de la parole de Dieu. Quand la foi authentique s'y établit, pas un faux semblant, là, la foi, pas l'espérance, Mais la foi, l'espérance est ici, à l'extérieur. Elle espère être à l'intérieur. La foi est déjà à l'intérieur. Elle regarde à l'extérieur et dit, c'est accompli. Voyez, voilà la foi. C'est là où la foi occupe son lieu de repos. En effet, elle sait que Dieu ne permettra jamais, jamais à l'ennemi d'avoir le dessus sur lui. Il ne l'a jamais fait. La foi le sait. Peu importe donc de quoi cela a l'air, Noé savait que cette arche flotterait. Voyez, certainement. Daniel savait que Dieu pouvait fermer la gueule des lions. Les jeunes Hébreux savaient que Dieu pouvait éteindre le feu. Jésus savait que Dieu le ressusciterait. Parce que la parole dit, « Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Il savait que la corruption s'installe en 72 heures. Il a dit, « Dans l'intervalle de 3 jours, je ressusciterai. » Voyez, elle a occupé son lieu de repos éternel dans le sanctuaire de la parole de Dieu et est restée là. Le raisonnement fera de son mieux pour déterminer, « Eh bien, ce système doit forcément être meilleur. Ceci, c'est cela. Ça semble meilleur. » Parce que vous regardez avec la pensée intellectuelle. Vous pouvez prouver votre raisonnement, mais vous ne pouvez pas prouver la foi. En effet, si vous pouvez le prouver, ce n'est plus la foi. Mais la foi ne connaît que la parole et la promesse. Elle regarde à cette chose qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne peut pas raisonner. Je ne peux pas prouver comment ça va s'accomplir. Je ne sais pas comment ça va s'accomplir. Je ne le sais pas. Mais je le crois. Je sais que c'est ça, parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est réglé. C'est ce qui me fait savoir que ceci est vrai. Je sais que la parole est vraie. Je sais que le message est vrai, parce que ça se trouve dans la parole. Et je vois le Dieu vivant agir pour le confirmer. Nous sommes dans un exode. C'est certainement vrai. Même la mort elle-même ne peut pas ébranler la foi. Les hommes se tiennent dans la mort, dans la... Face à la mort, elle crie la victoire de la résurrection. Paul, ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Voyez, car Christ est ressuscité, et ceux qui sont en Christ paraîtront avec lui à sa venue. Voyez, ça ne peut pas changer. Oui, la foi fait de la parole de Dieu le sanctuaire de son repos éternel. Elle repose sur la parole de Dieu. Remarquez encore, maintenant, il ne nous reste que très peu de temps. Environ 25 minutes, si ça ne vous dérange pas. Je voudrais continuer l'enregistrement de cette bande. Un instant. Remarquez, le roi, ce nouveau roi qui s'était élevé, ne connaissait pas Joseph. Quelle était sa machination primordiale pour détruire la force d'Israël? C'était au sujet de leurs enfants. Pas vrai? Il cherchait à détruire leurs enfants. Maintenant, écoutez attentivement. Le même diable, sous une autre forme, sous la forme d'un roi, a cherché à détruire le Fils unique de Dieu. Voyez, se débarrasser d'abord des enfants, avant qu'ils aient le moindre commencement. Le diable est un être très intelligent et astucieux. Il sait comment frapper la chose avant qu'elle commence. Il s'y connaît, voyez. Et tout ce que vous pouvez faire pour le vaincre, c'est de vous appuyer sur Christ, de vous humilier, et de le laisser vous conduire. Voyez, vous n'y arriverez jamais autrement. Vos capacités intellectuelles n'y arriveront jamais. Vous devez le croire. Appuyez-vous simplement sur lui. C'est lui le berger. Ce n'est pas aux brebis de tenir le loup à distance. C'est aux bergers. Mais les brebis doivent rester avec le berger pour rester en sécurité. Voilà mon périmètre de sécurité. C'est en Christ. Et Christ est la parole. Voilà le périmètre de sécurité. Remarquez, le diable, sous la forme de Ramsès, un roi, la première chose qu'il a faite était de se débarrasser des enfants par une mort naturelle. Et dès que le Fils de Dieu est né, il avait quitté l'Égypte parce que Dieu avait détruit l'Égypte et l'avait maudite et ne s'est jamais relevé depuis lors. Ensuite, il a emménagé à Rome. Satan a déplacé son trône à Rome. Et la première chose que Rome a faite pour tout détruire, pour être sûr, le diable dans ce système romain a cherché à détruire quoi? Le Fils de Dieu, au départ. Le même diable. Et aujourd'hui, il a fait la même chose. Cette fois-ci, sous le signe de l'esprit religieux, il professe le christianisme. Et nous prenons nos filles, nous les donnons en mariage à des hommes catholiques, ce qui les amène à élever leurs enfants dans la foi catholique, pour détruire la force de l'autre camp. voilà ce démon-là. Voilà le diable assis sur cette colline et qui porte une triple couronne, tout aussi sournois et rusé, intelligent, intellectuel que le serpent. La semence du serpent, ses enfants, on utilise les mêmes techniques, l'intellect. Regardez, alors ils ont tué les enfants, les deux autres fois. Ils ont tué les enfants, avec quoi? Deux fois. Or, souvenez-vous, observez ces deux fois, puis la troisième fois. Voyez, les deux premières fois, il a tué les enfants par la mort naturelle. Et cette fois-ci, il est en train de prendre les enfants et les tue par la mort spirituelle, par le mariage mixte. Daniel n'a-t-il pas dit la même chose, que dans ce royaume de fer et d'argile, il mélangerait ses semences pour chercher à détruire la force de l'autre peuple? C'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Et ils y sont parvenus maintenant. Ils ont porté un président au pouvoir. Maintenant, la prochaine chose que vous avez à faire, c'est d'installer un cardinal. Installer l'ensemble du cabinet. Et que ferez-vous ensuite? La prochaine chose qu'ils feront, c'est qu'ils prendront leur argent et ils paieront la dette des États-Unis. Ils l'emprunteront de l'Église. Et là, vous êtes livrés. Oui. Or nous vivons aujourd'hui et nous remboursons notre dette extérieure là-bas avec l'argent des impôts qui ne sera pas perçu avant 40 ans. Nous n'avons plus d'argent, mais l'Église en a. La Bible ne dit-elle pas, elle était parée d'or? Et, oh là là, mais vous, c'est comme ça qu'ils procèdent, voyez-vous. Ils épousent vos filles, leurs filles épousent vos fils. Ils élèvent vos enfants de la foi catholique. Tout à fait. Ils les tuent par la mort spirituelle. La Bible ne dit-elle pas qu'il la jetterait dans un lit de mondanité et qu'il ferait mourir ses enfants par la mort spirituelle? Apocalypse 17. Voyez, c'est toujours la parole. Peu importe où vous irez, c'est encore la parole. Il faut que ça s'intègre parfaitement dans le tableau. Sinon, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Si vous ne pouvez pas le faire tenir d'un bout à l'autre de la Bible, alors c'est faux. Regardez, pendant ce temps, Dieu formait son serviteur pour son travail. Il le formait loin de leur vue, loin de leurs plans, de leurs machinations. Est-ce que vous le saisissez? Loin de leur système d'organisation, Dieu formait un homme pour accomplir son dessein. Il a simplement laissé cela continuer. Il l'a laissé se marier, prendre une femme et avoir des enfants. Son fils, Gershom, il menait une assez bonne vie. Il le bénissait là-bas. Mais tout ce temps-là, il le préparait. Il le formait. Dieu et son ennemi ont fait dans le naturel à cette époque-là, comme Dieu et son ennemi font dans le spirituel maintenant. Eux, ils les ont tués par la mort naturelle. Maintenant, c'est par la mort spirituelle. Voyez? Dieu préparait un homme naturel, son prophète, pour qu'il aille en Égypte. Et Satan préparait un Ramsès, son homme naturel. Voyez-vous, il préparait un homme naturel. Pourquoi? Pour tuer, ou pour unir tous les Égyptiens et tous les Hébreux, afin qu'ils continuent à les servir. C'est pourquoi il est très difficile à la pensée de raisonner contre un système d'instruction qui peut défendre ses arguments. Voyez, c'est vrai, sa pensée ira toujours vers l'instruction. Les intellectuels et ceux qui raisonnent ne voient même pas ça. Avez-vous vu les 10 commandements de Cécile de Mille? Je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Je ne crois pas au fait d'aller au cinéma, ni à toutes ces histoires, mais j'ai recommandé ceci à l'Église. Si quelqu'un n'a rien d'autre que ça et qu'il voudrait le voir, ce serait en ordre s'il veut le voir, parce que je ne laisserai pas. D'abord, certains de mes frères y sont allés et sont venus me raconter. Je n'en avais vu aucun depuis des années. Finalement, j'y suis allé. Quand on a montré ça à ce cinéma de plein air, je l'ai regardé. J'ai vu ce qu'il en était. Puis j'ai dit à l'Église, si vous voulez aller le voir, c'est en ordre. C'était là. C'était admirable. Magnifique. Oh, cette ruse du diable. Comme il était sournois à ce sujet. Comme il s'est installé là-bas pour tuer ses enfants. Comme la pensée intellectuelle a saisi cela et y a cru, parce qu'il pouvait le voir. C'était raisonnable. Oh, comme Dieu formait ce prophète pendant tout ce temps, et comme l'Égypte formait ce Ramsès en politique pour qu'il prenne le pouvoir. Et puis, un jour, le grand combat a éclaté entre la puissance intellectuelle et la puissance spirituelle. Et Ramsès, avec tous ses dieux, se tenait là à verser de l'eau pour bénir le dieu du Nil. Dieu l'a frappé, et le sang est sorti de lui. Il avait... Oh, je pense que c'était étonnant, voyez-vous, de voir ce qui s'est passé. Oh, maintenant, regardez bien. L'intellectuel aura toujours tendance à raisonner. Et il ne peut pas voir le côté spirituel, parce qu'il est intellectuel. Oh, jamais, à aucun moment. Ils ne peuvent pas le voir maintenant. Ils n'ont pas pu le voir au jour d'Élie. Comment ce vieux prophète, au visage hirsute, pourrait-il, que Dieu me pardonne d'avoir dit une chose pareille, mais je mens, et Dieu sait que j'essaie de faire en sorte que ce soit aussi ridicule que possible pour que vous voyez l'Esprit de Dieu. Comme Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse, de peur que vos pensées ne s'attachent à la sagesse. Mais je suis venu avec la puissance du Saint-Esprit, afin que votre espérance et votre confiance se fondent, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi je fais en sorte que ceci soit très ridicule, en disant que ce grand et saint prophète avait un visage hirsute. En effet, peut-être avait-il un air affreux là, debout, près d'un sacrificateur, bien vêtu, qui se faisait appeler homme de Dieu. Regardez-le, on pouvait voir la sainteté de ce sacrificateur, selon la pensée intellectuelle. On pouvait voir le turban sur sa tête et autour de... et l'effort sur sa poitrine, ici. On pouvait voir sur sa barbe l'huile d'onction naturelle qui descendait jusque sur les pans de sa robe. On pouvait voir les feux de sacrifice brûlés et tous les rituels en ordre. Or, c'est sur cela que la pensée naturelle se serait focalisée. C'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui. L'œil, la porte de l'âme. Mais vous voyez, l'œil spirituel est au fond de cet œil. Ils ont regardé ce vieil homme hirsute qui se tenait là, la poitrine poilue, enveloppé d'un grand morceau de peau, de mouton, de cuir, une ceinture sur les reins, probablement pieds nus, ses petits bras tout maigres, la chair toute flasque comme ceci, le visage couvert d'une barbe blanche flottante et un bâton tordu à la main. Il se tenait là, mais l'œil spirituel voyait la puissance de Dieu qui agissait là, parce que ça concordait parfaitement avec la parole. Pas de ce que l'intellect voit, ce que l'œil spirituel voit. Et aujourd'hui, l'œil naturel voit une église tape à l'œil, une communion avec le maire de la ville, ou n'importe qui d'autre, dans ses organisations des dénominations. Et il ne voit pas la puissance du Saint-Esprit, alors qu'il peut ressusciter les morts et guérir les malades. Et comme, voyez, ils regardent, ils observent Hollywood, ils observent les gens dans la rue. Aujourd'hui, les femmes se disent, « Eh bien, cette femme, Suzy, elle est membre de l'église. » Elle a les cheveux coupés, elle se maquille, tout le monde en ville l'aime bien. Je me demande, qu'en est-il du ciel? Voyez, quand c'est contraire à la parole, Dieu ne peut pas l'approuver. Il l'approuverait contre lui-même. Il nierait sa propre parole. Et sachez que Dieu ne le fera jamais, même si les cieux et la terre passaient. Une femme aux cheveux coupés est une malédiction aux yeux de Dieu. Une femme qui porte un vêtement d'homme. Voyez, l'œil spirituel saisit ça. Ils vivent pour l'au-delà. La pensée naturelle vit pour raisonner sur les choses charnelles d'aujourd'hui. Remarquez maintenant, c'est Dieu qui accomplissait cela. Et pourtant, les gens ne s'en apercevaient pas. La pensée charnelle s'accommodait du raisonnement. Maintenant, Dieu appelle un exode spirituel, alors qu'il avait appelé son peuple un exode naturel. Aujourd'hui, il appelle un exode spirituel. C'est qui? Ses élus, seulement ses élus. Or, l'Égypte ne voyait pas qu'Israël avait raison, bien qu'il y eut le sang de l'agneau sur la porte et sur le linteau. Et toutes ces choses qui étaient arrivées, Dieu agissait là, dans ce prophète, et accomplissait la parole d'un homme. Il a laissé se tenir là-haut, prendre le bâton sur lequel il s'appuyait, le tendre vers l'est et dire « Que les mouches viennent et qu'elles descendent sur les Égyptiens ». Il s'est retiré, et tout le monde a dit « Il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé ». Mais quelques instants plus tard, une mouche verte s'est mise à tournoyer. Au bout d'un moment, elles étaient probablement 1 kilo par mètre carré. Un homme avait amené une création à l'existence par la parole. Il y avait là un Ramsès intellectuel qui se tenait là et s'y opposait. Un homme très religieux qui était contre l'esprit du Dieu vivant. La pensée naturelle ne voyait que Ramsès, mais la pensée spirituelle voyait la promesse. Elle voyait son accomplissement. Eh bien, si Josué et Caleb ont pu traiter ces Amalécites, ces Héviens et ces Jébusiens comme s'ils n'existaient pas, pourtant ils étaient deux, trois ou quatre fois leur taille. Et la pensée naturelle, à Kadesh Barnéa, quand les espions sont allés là-bas, ils ont dit, « Ah, on n'y arrivera pas, nous, ils sont trop grands. » Eh bien, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. Mais Caleb et Josué ont vu la promesse de Dieu. Ils ont dit, nous sommes plus que capables d'y arriver. Pourquoi? Ils regardaient. Dieu a dit, je vous donne ce pays. Voyez, la pensée charnelle ne comprend pas ça. La pensée spirituelle saisit cela. Et pourquoi? Je veux vous demander quelque chose. Pourquoi les Égyptiens n'ont-ils pas vu ces choses? C'est parce qu'ils n'étaient pas élus. Dieu l'avait dit à Abraham avant que cela arrive. Saisis cela, toi, Église qui dors. Dieu a dit à Abraham avant que cela arrive, ta postérité séjournera en Égypte pendant 400 ans et je les en ferai sortir. C'est pour cette raison qu'ils l'ont vu, parce qu'ils étaient élus à voir cela. Ce sont eux qui étaient les élus. Israël était élu à voir le signe de Dieu et ils sont sortis de l'Égypte, là où les incroyants ont péri. Et aujourd'hui, Dieu appelle ses élus, la postérité spirituelle d'Abraham, par la foi qu'il avait en la parole de Dieu. Ne voyez-vous pas la postérité spirituelle aujourd'hui? Elle ne regarde pas à l'Église intellectuelle, elle regarde à la parole. Et elle est appelée à sortir de ces grandes dénominations pour entrer dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Était-ce clair? L'avez-vous compris? Très bien, nous allons avancer. Uniquement les élus, les docteurs en théologie, en droit, en philosophie, ne voient jamais cela. Ils n'ont pas été élus. Et souvenez-vous, cette élection qui vient maintenant, ce n'est pas simplement pour aller dans une autre nation, c'est pour aller dans la gloire, où leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, pas sous un animal naturel, un petit agneau qui a fait sortir Israël, où on pouvait rétrograder, faire marche arrière. Mais ici, c'est impossible. Ici, c'est sous le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et leurs noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et ils sont là-dedans, élus, et quand cette lumière brille sur eux, du coup, ces murs dénominationnels s'effondrent autour d'eux, et les voilà qui sortent. Sortez du milieu d'eux, dit le Saint-Esprit en ces derniers jours. Ne touchez pas à leurs choses impures. Je serai Dieu pour vous. Vous serez des fils et des filles pour moi. Maintenant, observez. Israël observait. Ils savaient que Dieu traitait avec ses prophètes. La parole vient à eux. Et ils sont venus voir cela et ils l'ont vu. Et là, ce signe, l'intellect, nous le voyons maintenant. C'est qu'ils croient à leurs organisations. Ils demeurent dans leur credo. Pourtant, ils, tout comme Balaam, qui était monté au sommet de la colline où se trouvait Israël, Israël était là. Ce n'était pas une nation, ce n'était qu'un peuple qui errait ça et là et qui était coupable. Et Moab, son frère, l'intellectuel, l'homme organisé, est monté au sommet de la colline avec l'évêque ou le prophète qu'ils avaient. Il a dressé un autel et il a offert le même sacrifice. Mais ils ne voyaient pas la colonne de feu et le rocher frappé au sein d'Israël. Il en est de même aujourd'hui. La pensée intellectuelle se tournait vers la célébrité qui était là. Ils ne voyaient pas le rocher frappé. Même l'évêque lui-même ne voyait pas la puissance du Saint-Esprit, le cri du roi dans le camp. Il ne voit pas ça. Donc, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Dieu est en train d'appeler son peuple élu, et là, ils sont élus. Et là, ils sont élus pourquoi? Pour une résurrection. Et quel genre de signe leur montre-t-il? Le signe de la résurrection. Qu'est-ce qu'il leur montrait à cette époque-là? Le signe de la délivrance, pour les délivrer de la servitude. Le signe de la puissance, qui pouvait fermer les cieux, ou qui pouvait noircir les cieux. Et maintenant, il montre la puissance de la résurrection de son Fils, qui vit au milieu d'eux, pour les ressusciter de cette tombe, et de ce cimetière dans lequel nous sommes, et les amener au pays qu'il nous a promis. Le signe de la résurrection, l'appel à sortir de l'Égypte spirituelle et de la Babylone spirituelle. Savoir, je vais dire ça tranquillement maintenant, pour que vous le saisissiez. Il le fait selon le même système qu'il a fait au début. C'est la même chose qu'il fait. Il aveugle les yeux de l'incrédule, il ouvre les yeux du croyant. Et remarquez, c'est ce que fait la politique du côté intellectuel. La politique est l'Église, la politique est les nations, tout. Et l'autre côté leur est caché. C'est une cause spirituelle. Dieu a pris un homme dans le désert et l'a formé. Il l'a ramené. Cet homme a pris le contrôle de la situation et a fait sortir le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas changer son programme. Il est Dieu. Il ne traitera jamais avec un groupe. Il ne l'a jamais fait. Il traite avec un individu. Il l'a fait et il le fera. Il a promis, même dans Malachie 4, qu'il le ferait. C'est vrai. Donc, voilà sa promesse. Ce qu'il était, ce qu'il a promis qu'il ferait. Et nous y sommes. Quel peuple heureux nous devrions être. Il leur donne le signe qui a été promis dans sa parole. La parole promise. Il a promis qu'il le ferait. Et cela rétablira la foi des gens et ramènera les cœurs des gens à la foi des premiers pères pentecôtistes. Il a promis de le faire. Il montre ses signes. Et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quel genre de signes les églises ont-elles vu à Sodome? Qu'est-ce que l'église intellectuelle a vu? Deux prédicateurs. Et l'église spirituelle, élue, Abraham et son groupe, ils ont vu Dieu manifesté dans un corps de chair humaine, capable de discerner l'esprit et de faire savoir ce que Sarah disait derrière lui. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons le Saint-Esprit faire la même chose parmi nous, agir dans la chair humaine. C'est l'heure. Voyez, nous y sommes, mes amis. C'est tout. Un exode est en marche. Mais maintenant, remarquez, en ce temps-là, il l'a fait par quel moyen? Là, remarquez, mettez en marche votre pensée spirituelle. Puisse le Saint-Esprit retirer le vieux capuchon de l'indifférence maintenant. Écoutez attentivement. Si Dieu prend la décision de faire quelque chose d'une certaine façon, une fois, il ne peut jamais modifier ça. Dans le jardin d'Éden, quand il a voulu racheter l'homme pour le ramener dans la communion, il a pris une décision. C'était le sang. Ils ont essayé l'instruction, ils ont essayé la dénomination, ils ont essayé le nationalisme et tout. Ça ne marche jamais. Il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontrera toujours l'homme. C'est sous le sang versé, comme en Éden. Ça n'a jamais changé. Le seul lieu de rencontre avec Dieu du temps de Job, c'était sous l'agneau du sacrifice. Son seul lieu de rencontre du temps d'Israël, c'était sous l'agneau du sacrifice, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. C'était sous l'agneau du sacrifice. Son seul lieu de rencontre aujourd'hui, ce n'est pas dans les dénominations. Elles se querellent et font des histoires entre elles. Pas dans les attitudes ecclésiastiques. Les églises continuent de faire la même chose. Pas dans l'intellectualisme. Ils sont tous embrouillés. Mais sous le sang de l'agneau, c'est là que chaque croyant peut venir communier. C'est là qu'il y a la vie. C'est Dieu qui choisit. À l'époque de l'Exode, il a appelé un groupe à sortir. De ce groupe, je veux vous faire remarquer quelque chose. Il n'a eu que deux hommes de ceux qui sont allés au pays promis. Quel moyen a-t-il choisi pour les faire sortir? La politique? L'organisation? Il a choisi un prophète qui avait un signe surnaturel, une colonne de feu, pour que le peuple ne se trompe pas. Ce que le prophète disait était la vérité. Et Dieu est descendu dans une colonne de feu et a confirmé qu'il s'agit bien de lui. Il a fait une démonstration de sa parole, pas vrai? C'est ce qu'il a produit à son premier exode. À son deuxième exode, avec Dieu, les choses vont toujours par trois. Il est parfait en trois. Vous avez tous remarqué mes prédications. C'est toujours trois et sept. Oui, sept, c'est l'achèvement. Trois, c'est sa perfection. Le premier, le deuxième et le troisième poule. Et, oh, tout, voyez, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, tout, voyez. Remarquez, qu'est-ce qu'il a fait au premier exode? Il a envoyé un prophète oint avec une colonne de feu et il a appelé le peuple à sortir. C'était son premier exode. Et quand le temps prévu pour Israël est venu, il a de nouveau envoyé un prophète Dieu avec une colonne de feu. Jean l'a vu descendre du ciel comme une colombe. Il a dit, « Je vais à Dieu, je retourne à Dieu. » Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saul de Tarse, en route pour Damas, a vu cette même colonne de feu. Et comme il était en hébreu, bien enseigné dans la parole, il a dit, « Seigneur, qui es-tu ? » Il savait que cette colonne de feu était le Seigneur. Il était en hébreu. Il a dit, « Qui es-tu ? » Et il a dit, « Je suis Jésus. » Au deuxième exode, il a suscité un prophète oint, qui était son fils, un prophète Dieu. Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Il avait la colonne de feu, et il a opéré des signes et des prodiges. Et ce même prophète a dit, « Quiconque croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Et ici, il a promis la même chose dans l'exode, au dernier jour, et il ne peut pas modifier cela. Et par des preuves scientifiques, par le témoignage de l'Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous le voyons aujourd'hui. La grande colonne de feu agit parmi nous. Et les signes et les prodiges de la résurrection de Jésus-Christ, qui appelle les gens à sortir du système des dénominations, et les fait entrer dans la présence de Jésus-Christ pour vivre, aller dans un pays. Il n'y a pas d'erreur, mes amis. Il ne s'agit pas de ce que moi je dis, je suis simplement votre frère, mais il s'agit de ce que Dieu vous prouve, c'est ce qui fait que c'est la vérité. La même colonne de feu qu'il a utilisée les deux autres fois, il l'a amenée parmi vous aujourd'hui et on a apporté la preuve scientifique. Comme vous le savez, le magazine Life en a parlé le mois passé, là-bas. Là où, combien étaient ici et m'ont entendu parler de ça, de ce qui s'est passé avant que cela se produise? Presque tout le monde dans l'église, je pense. Voilà, c'est ça. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Les scientifiques cherchent à le savoir. Tous ceux qui avaient une photo de cela ont appelé un nuage à 42 km d'altitude, en forme de pyramide. Sept anges figurent là-dedans. Ils ont ramené la parole de Dieu et vous l'ont donnée sous l'inspiration. Cela vous indique cette heure où vous êtes, cette heure où vous vivez. La pensée spirituelle va saisir cela immédiatement, voyez, et comprendre cela. C'est un exode. Nous partirons un de ces jours. Grâce soit rendue à Dieu. Souvenez-vous-en, et je vais terminer dans quelques instants. Il me reste 10 minutes. Remarquez, la colonne de feu qu'ils avaient appelée à sortir les a conduits au pays promis, sous l'onction d'un prophète. Une colonne de feu qu'ils pouvaient voir les a conduits au pays promis par un prophète oint. Et continuellement, ils le rejetaient. Pas vrai? Bien sûr. Maintenant, je sais que nous devons avoir un service de baptême. J'ai encore environ 6 pages ici, je pense. Mais je vais m'arrêter maintenant, dans un instant. Observez bien, l'appel à sortir est lancé pour nous. « Sortez de Babylone, mon peuple, a dit la voix de l'ange. » De quoi? De la confusion. Qui a raison? Est-ce l'église méthodiste, baptiste, catholique? Sortez de là. C'est Dieu qui a raison. Comment le savez-vous? Que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Sortez de là. Qu'en savez-vous? C'est la même colonne de feu. C'est le même esprit qui oint, qui nous conduit au pays promis. Remarquez, ça les a conduits, les a fait sortir, les a conduits au pays promis, Israël, la nation. Et le même Dieu, la même colonne de feu que seul, ils disent que cet appareil photo, eh bien, vous avez lu George G. Lacey, pas moi là, vous avez lu ce qu'a écrit George G. Lacey Celui qui a examiné cette photo, c'est le chef du service des empreintes digitales et documents du FBI. Sa déclaration est là. Certains disent, c'est un objectif à double exposition. Des dizaines de milliers de gens l'ont regardé, de leurs propres yeux. Nous étions ici, et nous l'avons regardé. Vous l'avez regardé. Ce n'est pas ça. Ils ont dit, c'était une illusion d'optique. Qu'est-ce que M. Lacey a dit? L'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. Ah oui, il ne s'agissait pas d'une illusion d'optique. Elle est là, cette même colonne de feu. Alors ils disent, oh eh bien, c'était une illusion. Alors qu'il y avait tous ces appareils photo à des centaines de kilomètres de Tucson. 6 mois avant que cela se produise, nous vous avons annoncé par le Saint-Esprit que j'irai là-bas pour prendre les nouvelles. En effet, il y avait une écriture à l'extérieur de la pyramide, selon le songe que le frère avait eu. Et je vous ai interprété ça. En voilà l'interprétation complète. Maintenant, tous ces mystères, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, ont déjà été expliqués. Maintenant, nous en réglons les points qui étaient restés en suspens, qui étaient cachés dans les 7 sceaux, non pas dans les 7 églises. Ce sont les 7 sceaux qui ont révélé ces mystères. Ensuite, il a ouvert cette chose à son sommet, et un roc blanc se trouvait là-dedans. Mais rien n'avait jamais été écrit dessus. C'était un mystère. Je suis allé à Tucson. J'ai annoncé cela avant que ça se produise. J'étais au nord de Tucson. Il y a ici des témoins qui étaient présents quand il y a eu une déflagration qui a fortement ébranlé les montagnes. Et au même moment, il y avait un cercle de lumière suspendu là-haut, dans les airs, là, quand les scientifiques ont photographié cela, à 42 km d'altitude, environ 5 fois plus haut que peut s'élever un brouillard ou quoi que ce soit. Il n'arrive même pas à trouver ce qu'il a fait. Vers le soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. Si vous êtes élu, si cette semence tombe sur des terres sèches ou sur des pierres, elle ne produira jamais rien. Des cœurs durs, des cœurs de pierre qui veulent être indifférents. Mais si elle tombe sur la terre molle et riche de la foi, elle produira un chrétien qui portera les fruits de l'esprit. Remarquez comment Dieu s'y est pris. Maintenant, il a cette même colonne de feu. Elle est confirmée. Quelqu'un a dit, pourquoi n'allez-vous pas en parler à ces scientifiques? Pensez-vous qu'ils pourraient croire cela? Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Jésus a dit de ne pas le faire. Je ne me sens pas conduit à le faire. Pourtant, j'habite dans cette même ville où ils cherchent des explications. J'ai eu l'idée d'y aller. Le Saint-Esprit a dit, reste à l'écart. Cela ne leur est pas destiné. Retourne le dire au tabernacle. Très bien. Et il arrivera, si ce qu'ils disent arrive, alors souvenez-vous, c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur. Voyez-vous, avant que cela arrive, et ça arrive, écoutez la Bible, la voix de Dieu qui vous appelle en ce jour-ci. Maintenant, je veux que vous remarquiez, cette même colonne de feu conduit de nouveau les gens au pays promis, le millénium. C'est ce que nous avons vu sous l'inspiration de ce 6e sceau. Ça n'a jamais été enseigné auparavant. Il faut que la terre soit purifiée pour le millénium. La colonne de feu est en train de les conduire à un millénium. Et remarquez, la colonne de feu qui a conduit l'Israël libéré de la servitude, dans cet exode-là, la colonne de feu, sous la conduite de Dieu, Dieu était le feu, et la colonne de feu n'a oint que le prophète. La colonne de feu devait servir de témoin céleste que Moïse avait été appelé à sortir. Vous vous souvenez de Dathan et des autres qui ont dit, « Eh bien, nous devrions commencer une organisation. Moïse, tu en prends trop sur toi. Tu essaies de dire que tu es le seul saint parmi nous. Toute l'assemblée de l'Éternel est sainte. Comment peux-tu prendre ça sur toi ?» Alors Moïse est tombé la face contre terre et s'est mis à pleurer. Il lui a dit, « Sépare-toi de lui. Je vais ouvrir la terre et l'engloutir. » Un type. Comment ? Moïse leur avait dit qu'il leur répétait ce que Dieu avait dit. Et Dieu confirmait que c'était la vérité. Même Marie, la prophétesse elle-même, et Aaron s'étaient moqués de Moïse pour avoir épousé cette jeune fille éthiopienne. Ils s'étaient moqués de lui. Et Dieu s'est mis en colère. Ils avaient parlé contre son serviteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés à l'entrée de la tente. Et pourtant, Marie était une prophétesse. Mais Moïse était plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Il a dit, « Ne craignez-vous pas Dieu? Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans des visions que moi, l'Éternel, je lui parlerai. Et c'est dans des songes que je me ferai connaître à lui. » Mais a-t-il dit, « Pas Moïse. » Il a dit, « Ne craignez-vous pas Dieu? » Et elle était à moitié morte, frappée de lèpre à l'instant même. Vous le savez. N'a-t-il pas dit, Jean-Baptiste, êtes-vous allé voir un prophète? Oui, plus qu'un prophète. Pourquoi? Pourquoi était-il plus qu'un prophète? Il était le messager de l'Alliance, la voûte qui reliait ces deux dispensations. Et aujourd'hui, ce que nous avons parmi nous, ce glorieux Saint-Esprit, est plus qu'un prophète. C'est Dieu manifesté parmi nous. Sa parole est là pour le prouver. Il en fait plus qu'un prophète, mille fois plus que ce que font les prophètes. Élie, l'un des plus grands prophètes de l'âge, n'a fait que quatre choses surnaturelles dans toute sa vie de plus de 80 ans. Et Élisée, avec une double portion, en a fait 8. Et nous en voyons des milliers de milliers de nos propres yeux. Nous voyons l'ange du Seigneur dans une colonne de feu. La recherche scientifique apporte ça au monde, sachant qu'ils vont être jugés par elle. Qu'est-ce que cet agneau a fait? Cet ange du Seigneur, qui était Christ. Le croyez-vous? Jean 6. Ils buvaient tous cette eau, se payaient du bon temps et se réjouissaient. Il a dit, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Je suis ce rocher qui était dans le désert. » Ils ont dit, « Maintenant nous savons que tu es fou. Tu es fou. Tu es un démon, toi. Tu es un fou. Tu es un démon. » Vous savez, les gens qui ont un esprit sur eux, parfois ils deviennent très actifs. Religieux. Ils ont dit, tu es un démon, toi, tu es un démon, tu es un samaritain, et toi, tu es un démon. Ils ont dit, et là, tu n'as même pas plus de 50 ans, et tu dis que tu as vu Abraham? Je peux le voir reculer de quelques pas. Il a dit, je suis celui qui suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'était un feu ardent, cette colonne de feu dans le buisson. Quand il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, Saul l'a rencontré en route. Il était redevenu cette colonne de feu. Il avait dit, « Je suis venu de Dieu et je vais à Dieu. » Quand Pierre était en prison, cette colonne de feu est entrée, a ouvert les portes et l'a fait sortir. C'est vrai. Où est-ce que cette colonne de feu les a conduits? Or, souvenez-vous, Moïse n'était pas la colonne de feu. Il était le conducteur loin, sous cette colonne de feu. Et la colonne de feu confirmait simplement son message par des signes et des prodiges. Et cette colonne de feu les a conduits au pays que Dieu leur avait promis, où un jour, lui-même, il se ferait chair parmi eux. Pas vrai? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré, se sont agités et tout, pour montrer que c'était sous le sang d'un agneau ordinaire. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu, cette colonne que nous voyons parmi nous, la colonne de feu nous conduira au millénium, où il retournera vers son peuple, dans ce glorieux règne du millénium, après cet exode-ci, et nous vivrons éternellement avec lui. Il a toujours eu la parole du Père. Il a toujours prouvé qu'elle est vraie. Nous sommes dans un exode. Nous partons. Nous allons arrêter l'enregistrement dans un instant. Oh, mes amis, mes frères, à ceux qui sont ici et à ceux qui écouteront les bondes, je vais, en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, entrer dans cet exode, car tous ceux qui seront restés porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone, sortez de cette confusion, sortez de ces systèmes et servez le Dieu vivant. Que ce grand ange de l'Alliance, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu, sous la même forme qu'il avait à cette époque-là, quand il a introduit ce premier exode, quand il a introduit le deuxième exode, et le voici avec le troisième exode. Au premier exode, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait sortir d'un pays naturel pour un pays naturel. Au deuxième exode, il les a fait sortir d'un état spirituel à un baptême spirituel du Saint-Esprit. Il les ramène maintenant du baptême spirituel du Saint-Esprit au pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. La même colonne de feu par le même système oint, le même Dieu qui fait les mêmes choses. Et la même parole qui annonçait le premier, annonçait le deuxième. La même parole qui annonçait le deuxième, annonçait le troisième. Et voici que nous voyons cela parmi nous. Sortez! Oh, sortez de ce chaos! Venez au Dieu vivant! Venez à la parole! Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et maintenant, il est dans notre chair. Il habite parmi nous. Sortez et servez le Dieu vivant pendant que nous inclinons la tête. Avec la tête inclinée, du plus profond de votre âme, du plus profond de tout ce qui est en vous, êtes-vous prêt à vous souvenir de... Êtes-vous prêt à arrêter toutes les choses du monde et à vivre pour Dieu? Alors, si vous n'êtes pas sérieux, ne le faites pas. Mais si vous l'êtes, de tout votre cœur, que vous êtes maintenant convaincu, comme Jésus l'a dit à la fin de son ministère, croyez-vous maintenant? Êtes-vous convaincu que ces choses sont vraies, qu'elles sont confirmées par Dieu, et que nous sommes au temps de la fin, et que vous voulez vraiment venir à Christ maintenant? Entrez dans cet exode, cet appel à sortir de l'indifférence, du système des dénominations, des opinions et des choses du monde. Et vous voulez vous abandonner entièrement à lui et entrer dans l'exode, à destination du pays promis, ce pays béni. Voulez-vous lever la main pendant que nous prions? Êtes-vous vraiment sûr de vouloir sortir, chacun de vous? Père Céleste, ceux qui ont les mains levées, puissent-ils sortir maintenant, Seigneur. Que le Saint-Esprit, selon la promesse de la parole, que le Saint-Esprit descende dans leur cœur. Dans notre assemblée, il y avait une vingtaine de mains, je pense, Père, de ceux qui sont convaincus et qui savent que c'est vrai, et ils veulent sortir. S'il y avait... Au jour de la sortie d'Israël, sur un peuple de 2,5 millions, seulement 2 sont entrés dans le pays. Au jour de Jésus-Christ, c'est environ 120 qui y sont parvenus. Et maintenant, en ces jours de la fin du monde, tu as dit, « Étroite est la porte, et resserré est le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront. » Mais spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en aura beaucoup qui entreront par là. Ces paroles ne peuvent pas faillir. Elles sont de toi. Maintenant, je prie pour eux, Seigneur. Je te prie, en cette heure, de circoncire leur cœur par ton Saint-Esprit, enlève-en toutes les choses du monde. Circoncis leurs oreilles, pour qu'ils entendent clairement la voix de Dieu qui les appelle par sa parole et par la lumière de ce jour. et fais, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent afin qu'ils voient la gloire de Dieu en cette dernière heure. Tu as dit, tous ceux que le Père m'a donné viendront, et je les ressusciterai au dernier jour. Seigneur, peut-être qu'il y en a beaucoup ici qui ne comprennent pas encore. Je te prie de traiter avec eux et de leur donner une autre occasion, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre. T'entendre parler à travers ta parole, leur prouver que c'est toi-même. Aussi nous as-tu parlé avec une voix surnaturelle, suivie d'une interprétation, qu'ils voient tes grandes œuvres qui prouvent que c'est vrai, conformément à la Bible. Je te prie, ô Dieu, de nous pardonner nos péchés maintenant, alors que je me penche sur cette parole. Ô Dieu, je pense qu'il y a juste une semaine, je me suis penché sur un homme mort, là, sur le plancher. J'ai vu le glorieux Saint-Esprit le ramener à la vie. Ses yeux étaient révulsés vers l'arrière de sa tête. Il était couché, mort. Après quelques petits mots pour invoquer ton nom, je l'ai vu vivre. Il est ici aujourd'hui, encore en vie. Seigneur, tu es le même Dieu comme la foi où Paul s'est penché sur ce jeune garçon qu'il avait écouté prêcher si longuement, ce jeune homme qui était tombé de la fenêtre. Tu es le même Dieu qui peut rendre la vie. Nous te remercions, Père. Puisse l'incrédule peut ne pas croire, mais nous, nous croyons, Seigneur. Pour nous, tu as fait tes preuves. Maintenant, puisse la méditation de mon cœur, les pensées de mon esprit, ma force et tout, se fondre dans cette parole. Seigneur, que la parole, moi et le peuple, tous ensemble, nous puissions marcher vers le royaume de Dieu. Accorde le Seigneur, pardonne nos péchés, guéris nos maladies et fais de nous les sujets de ton royaume. Et maintenant, alors que ceci s'avance, Seigneur, le baptistère est ouvert, l'eau est prête et le baptême va commencer dans quelques minutes. Nous nous souvenons que quand ce même évangile était prêché, la Bible dit « tous ceux qui crurent furent baptisés ». Il y a des mouchoirs posés ici, Seigneur. Je les bénis au nom de Jésus-Christ pour la guérison des malades. Alors quand nos réunions sont longues et se prolongent, car l'heure est avancée, nous devons semer la parole alors qu'il y a une terre dans laquelle la semer, car l'hiver froid arrive. Nous le voyons. Les feuilles tombent et nous savons que l'hiver est proche. Nous devons creuser la surface et mettre la semence en terre. Je te prie donc, Père Céleste, de parler à chaque cœur. Et la Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. Et Seigneur, maintenant, s'il y en a beaucoup ici qui ont cru et qui n'ont pas encore été baptisés au nom de ton enfant bien-aimé, Jésus, puissent-ils venir ce matin, doucement et humblement, confesser leurs péchés et mourir aux choses du monde, pour se faire enterrer, pour revêtir le nom de Jésus-Christ, pour vivre pieusement désormais avec l'aide du Saint-Esprit. Nous te les confions maintenant, Seigneur, dans ce but, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous remettons le service à Frère Neville pour tout ce qu'il a à dire pendant qu'on se prépare pour le service de baptême. Ce soir, à 19h30, si le Seigneur le veut, je voudrais enregistrer cet autre message. D'ici là, que Dieu vous bénisse.